BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs, des meilleures investisseuses. Nous sommes à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours, de 10h à midi en direct. On est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes mercredi 24 avril. Au programme de l'émission, nous allons faire le point sur les publications. On va se poser la question suivante. Et si la tech décevait, ça serait probablement la plus grosse cause d'une correction de marché. On va aussi parler des foncières cotées qui sont en forme et encore assez peu chères. C'est ce que va nous dire Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Est-ce qu'il y a un coup à jouer avant une baisse des taux? Peut-être. Laurent Grassin de l'équipe de Boursorama sera aussi avec nous. 10h30, votre dose d'économie comme tous les jours avec Nicolas Dose. Nicolas va nous parler du grand soir de la complexité. Côté bourse, Antoine Larigaudry est déjà connecté depuis Euronext. Et puis nos deux traders vont bientôt nous rejoindre pour la séance du jour, le match des traders. Notre coach du mercredi, c'est Grégory Guillemin depuis la Belgique, le fondateur de la bourse Make It Easy, qui va nous expliquer... Vous nous rappelez les bases d'une bonne stratégie d'investissement. Ce sera vers 10h45. Aujourd'hui, on investira dans le sport. Et oui, les retombées économiques estimées des Jeux Olympiques pour la France sont estimées sont attendues autour de 6 millions d'euros. Comment et sur quel segment investir pour capturer ces tendances, non seulement en France, mais peut-être dans le monde entier? C'est Nicolas Kieffer de Montpensier Finance qui sera avec nous. Et puis, avant le sport, il y aura notre question-réponse du jour qui portera sur notre déclaration de revenus. Est-ce qu'il faut savoir les pièges à éviter? Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos, sera avec nous dès 11h30. Ce sera sur BFM Business aujourd'hui. Et puis vendredi, dans votre journal papier ou votre journal numérique, les Échos. Au programme, il y a vous. Vous avez la parole tout au long de notre direct. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn en message privé, comme Emmanuel, Belkacem ou Paul. Ou vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse directe @bfmbusiness.fr, comme Artoff, qui a ouvert un compte titre chez un broker en ligne en janvier. Il voudrait savoir s'il doit déclarer aux impôts cette année ou bien l'année prochaine ce compte titre en ligne. On va vous répondre tout à l'heure, Artoff. Pour l'heure, nous partons rejoindre Antoine du côté d'Euronext pour faire le point sur la séance qui a démarré il y a 1h06.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Cher Antoine, écartelez, non pas vous, mais notre CAC 40 ce matin, oui. Entre des publications de résultats dans tous les sens, et puis bah, finalement, une hausse, oui, mais une hausse assez timide du côté de Paris ce matin.
Mais c'est palichon hein, ce vert hein, du côté du CAC 40. On est en hausse de 0,17% à 8119 points. Alors vous le disiez, c'est le grand écart. Grand écart aussi en termes de performance, parce qu'on a quand même un Euronext Tech Leaders, notre Nasdaq, qui galope en hausse de 2,11%. Alors que nous, on est quasiment à l'équilibre hein, du côté du CAC 40. Le DAX à Francfort est même sur une hausse un petit peu plus décidée, plus 0,43%. L'Eurostock 50 aussi, pareil, plus 0,43%. Mais effectivement, le deuxième grand écart du jour, ce sont les écarts de performance entre entreprises à travers les publications des chiffres d'activité de ces dernières heures. Alors, il y a du très bon. La tech est vraiment bien orientée dans le sillage de tout ce qui a été annoncé hier soir après la clôture de Wall Street. Déjà, on a un très vif redressement du Nasdaq. Ça fait deux jours de suite que ça dure, notamment le secteur des semi-conducteurs, secteur qui était très animé parce qu'après la clôture, on a eu les trimestriels de Texas Instruments, qui est un des gros acteurs du secteur qui ont ravi un petit peu tout le monde. Ce matin, on a eu ASM Lithium, le spécialiste des machines de gravure sur semi-conducteurs, qui a fait état de trimestriel supérieur aux attentes. Et donc, on a vraiment un tir groupé là, très très intéressant sur le SBF 120. La plus forte hausse, c'est X-Fab Silicon Foundries, qui gagne quasiment 8%. On est à 7,10€. On a ST Micro en tête des progressions du CAC 40, plus 5,9%. Et Soitec, plus 4%. On est à 93,85€. Mais à la suite, ben, on a tout le compartiment technologique qui se porte bien, avec notamment tiens, Dassault Systèmes, qui gagne 1,5%. 0,9% à 39,23 €. Mais de l'autre côté de l'échiquier, il y a Kering. Il y a Kering et il y a l'ensemble du secteur du luxe. Alors c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à des merveilles des trimestriels de Kering après son warning de ces dernières semaines. Mais alors là, franchement, abaissement des prévisions de résultats, les perspectives toujours très très incertaines autour de Gucci. Et du coup, prévision même d'un fort repli de la profitabilité. Donc Kering recule de 7,6% à 323,40 €. Derrière, on a l'ensemble du secteur du luxe. Alors, pas si mal orienté. LVMH, par exemple, qui perd 0,15% à 798,40 €. On a deux autres poids sur le CAC 40. Orange, moins 2,13% à 10,81 €. Air Liquide, moins 1,2% à 188,28 €. Et bah oui, la croissance est un petit peu en panne. Le marché est un petit peu plus difficile pour ces deux groupes. On a Eurofin Scientifique aussi qui recule de 5,16% à 58,42 €. Et au milieu de tout ça, un CAC 40 qui est dans le vert, mais plus 0,2% seulement. On est à 8122 points. Un petit coup d'œil du côté des changes et on a un euro-dollar qui forcit. Vous vous souvenez, hier, on disait que tout le monde pariait à la baisse sur l'euro-dollar et sur un retour à la parité. Là, je peux vous dire qu'il y a des hedge funds qui doivent avoir des sueurs froides parce que l'euro est en train de remonter en flèche avec les écarts de performance entre les différents indicateurs économiques qui sont tombés ces derniers jours. Là, dernier en date, c'est l'IFO allemand. On a un euro qui remonte quasiment à 1,07. On est à 1,0693, ma chère Lorraine.
Merci beaucoup, Antoine. On vous retrouve dans une heure. Nous reparlerons de Tesla, parce que il semblerait que quand même Elon Musk n'ait pas tout à fait perdu son mojo. Dès qu'il parle, globalement, il fait miroiter beaucoup de choses et ça convainc les marchés. C'est le moins qu'on puisse dire. À tout à l'heure, cher Antoine.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et notre rédacteur en chef ce matin, c'est Félix Baron. Bonjour, cher Félix.
Bonjour, Lorraine.
Félix Baron, pour ceux qui nous suivent en image, qui a piqué le look d'Antoine Larry-Gaudry puisqu'il porte de magnifiques bretelles. Félix, vous êtes, au-delà de votre port de bretelles, fondateur du Club des investisseurs indépendants avec nous le mercredi pour couvrir l'actualité. On va parler d'un sujet qui vous est cher et que vous surveillez de près dans cette période de publication. Ce sont les foncières cotées. Elles sont en forme, les foncières cotées. Racontez-nous.
Elles sont en forme. Elles se remettent doucement de deux années assez compliquées depuis la hausse des taux. Les taux d'intérêt pour les foncières immobilières cotées, c'est l'outil de travail principal. C'est ce qui va vraiment dicter le financement et donc la construction du patrimoine. Ça a été compliqué pendant deux ans et c'est une période qui a permis à nos grandes foncières, les Unibail, Gecina, Icad, Carmila pour les plus connus, Covivio aussi, de se recentrer sur leur bilan, donc de se désendetter. Mm-hmm. Si vous avez de la dette et que les taux montent, l'essentiel c'est quand même de la réduire et de réduire votre exposition au marché. De continuer à verser des dividendes, on est à des rendements moyens d'environ 7% sur le cours de l'action, mais aussi de faire du travail de fond, d'asset management, de signer des nouveaux baux, pour les foncières commerciales, de voir le chiffre d'affaires de leurs anciennes locataires progresser en renforçant l'attractivité des sites. Résultat, les Carmila, les Mercialis, l'ex-foncière de Casino, parce que maintenant Mercialis n'est plus détenue par Casino, c'est celle qui progresse le plus depuis le début de l'année, du plus 13% pour Mercialis par exemple. Et dans cette période de publication trimestrielle, pour celles qui ont commencé à publier, toutes, elles affichent des croissances de leurs revenus de l'ordre entre 5 et 12%. 5% pour les plus faibles, 12% pour les plus performantes. On attend encore les publications de Klépierre ou bien de Covivio, par exemple, mais c'est très prometteur. Et le coup à jouer, c'est que si les taux baissent, comme l'annonce la BCE ou la Banque de France d'ici le mois de juin ou d'ici l'été, mécaniquement, un taux d'intérêt plus faible va augmenter la valeur du patrimoine et réduire la valeur de leur dette. Donc, il y aura plus-value à prendre sur ces dossiers.
Voilà, un coup à jouer peut-être avant la décision de Christine Lagarde et de la BCE de baisser éventuellement les taux. Question rhétorique. En période de publication, et si la tech nous décevait?
Et si la tech nous décevait, il faut, je pense, bien définir ce que c'est que la tech. On vient de parler de Tesla. Est-ce que Tesla, c'est de la tech ou est-ce que c'est des bagnoles? C'est de la technologie dans des voitures, certainement. Est-ce que Apple, c'est de la tech ou des iPhones et des ordinateurs? Je pense que la tech, vraiment, vous avez Nvidia, vous avez Microsoft, vous avez des logiciels, vous avez Amazon Web Services, etc. Aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est que les fameuses 7 magnifiques, et d'ailleurs, il faudrait enlever Tesla et rajouter Broadcom, qui est passé.
Donc enlever 7, en fait, peut-être aussi.
Ouais, pardon ?
Enlever 7 aussi.
Voilà.
Un peu de chiffre, non ?
Ou enlever magnifique. Ce qui fait peur, c'est qu'elle draine des centaines de millions de clients, et donc des centaines de millions d'investisseurs, et c'est l'effet de masse, en fait. Donc si la tech déçoit, ce qu'on peut craindre, c'est un effet Pareto, où 20% des causes vont produire 80% des effets.
Eh oui.
Et ça serait peut-être la cause de correction la plus probable sur les marchés, avec une moindre pondération, une moindre concentration de toute la spéculation du drain de liquidité sur ces 7 magnifiques, au profit de sous-secteurs de la cote, les small cap, les pharma, l'alimentaire, etc., qui pourraient repartir dans un cycle plus haussier. Finalement, ce serait un rééquilibrage assez sain pour la diversification des portefeuilles et pour le niveau de valorisation de la tech.
Voilà, jolie démonstration de la loi de Pareto. Les pharma, hein, pour vous reprendre, dont on parlera dans quelques minutes avec Laurent Grassin de Boursorama qui va nous rejoindre. Question rhétorique pour terminer ce journal. Est-ce que nous aurons bientôt un Nasdaq européen ?
C'est l'idée présentée dans le rapport L'État et peut-être dans le rapport Noyer, qui sont des rapports présentés par les différents dirigeants économiques européens pour créer vraiment une union de marchés capitaux et faire la concurrence au marché américain. Mais avant de vouloir créer un indice Nasdaq pour les entreprises européennes, il faudrait peut-être créer un marché. Il y a le poids de la capitalisation du Nasdaq. Le Nasdaq 100, hein, les 100 premières entreprises du Nasdaq, c'est 22 000 milliards de capitalisation. C'est 11 fois le CAC 40, c'est donc 22 fois le DAX. Il n'y a même pas match. Tant qu'il n'y aura pas assez de liquidités et de capitaux sur le marché européen, on peut faire tous les indices qu'on veut, on ne fera pas le poids par rapport l'union des marchés de capitaux ne fera pas le poids par rapport aux États-Unis.
Il faudrait déjà un marché. On va reparler aussi de ce Nasdaq européen et plus largement du rapport L'État à venir et du rapport Noyer d'ici quelques minutes. Mais avant ça, merci beaucoup Félix. Je vous propose de passer une tête chez nos traders pour voir si nos espoirs de début de semaine vont peut-être être justifiés.
Tout pour investir, le match des traders.
En ce mercredi, nous sommes avec Antoine Fraisse-Soulier de l'équipe d'Itoro et puis Valentin Nico de l'équipe Bourse Direct. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Valentin, on va démarrer avec vous. On avait plein d'espoirs de hausse en ce début de semaine. Est-ce que pour vous, il faut rester dans l'espérance ?
Écoutez, là en tout cas, on est sur les niveaux les plus importants. À noter sur le début de semaine, par rapport aux deux séances de hausse qu'on a eues, on n'a pas eu d'augmentation de la position ouverte, ce qui de notre côté nous rassure pas forcément sur la force du mouvement. Maintenant, on reste sur des niveaux encore intéressants. Nous, on avait le niveau de 8080. On est actuellement sur ce niveau sur le futur. Pour supprimer la dernière baisse qu'on avait eue et repartir sur, d'après nous, une tendance haussière. Donc pour les traders intraday, on a des niveaux de résistance à 8080, donc le niveau actuel, un peu plus haut 8160. Les supports seront à 8045 et 7981. Donc encore une fois, pour nous, le dernier mouvement de baisse s'arrêterait si on passe le niveau sur lequel on est actuellement. Si jamais en cours de séance on repart plutôt à la baisse, on aurait comme objectif 8045 points dans un premier temps. Voilà pour ce qui est de l'essentiel. Quelques publications importantes dans la journée. On aura Air Liquide, Orange, Michelin, Carrefour et Meta côté américain. Donc voilà, c'est vraiment un niveau où c'est difficile de prendre des initiatives et on le ressent dans le marché actuellement.
Difficile de prendre des initiatives. Est-ce que vous êtes d'accord, Antoine Fraisse-Soulier, et vous, qu'allez-vous faire aujourd'hui ?
Oui, alors c'est vrai que c'est difficile de prendre des initiatives, sachant qu'on est juste avant des publications de résultats qui sont très importantes. On l'a dit, donc Meta aujourd'hui, puis il y aura Google aussi demain. Donc c'est vrai qu'on attend de voir. Alors ce matin, par exemple, on a le Kering qui perd quasiment 8%, et malgré tout un CAC qui est en hausse. Donc ça n'entraîne pas le secteur du luxe à la baisse. Et d'ailleurs, ce secteur du luxe, la semaine dernière avec LVMH et L'Oréal, avait permis à l'indice parisien de terminer en hausse la semaine dernière. C'est le seul indice qui avait terminé en hausse. Donc d'ailleurs, on avait dit que c'était possiblement la fin de la correction. À court terme, c'est le cas. Alors maintenant, effectivement, le CAC 40 a rebondi de 2% sur les plus bas. Là, on est actuellement sur une zone de résistance, hein, aux alentours des 8120 points, 8140. C'est vraiment un niveau important. Si on arrivait à le dépasser, on pourrait retrouver les anciens plus hauts qui se situent aux alentours des 8200, 8250. C'est pas forcément le scénario privilégié, puisqu'on a quand même de la faiblesse. Et puis aussi, on aura les chiffres d'inflation. Et ça, c'est vraiment vendredi. Hein, ça va vraiment déterminer aussi la semaine. Mais alors, les niveaux, donc comme je l'ai dit, c'est 8120, 8140. En revanche, si on devait repartir un petit peu plus bas, on a identifié 8048 points. Mmh. Et après 8000 points, le seuil psychologique. Mais effectivement, on navigue à vue en fonction des résultats, en fonction des données macroéconomiques qu'on va avoir en fin de semaine.
Et oui, et puis cette semaine, voilà, des résultats et de la macro, on va en avoir. Donc la navigation à vue va continuer. Merci beaucoup, messieurs, pour cette lecture de la séance en cours et plus largement de la semaine avec vous. Antoine Fraisse-Soulier de l'équipe Itoro et Valentin Nico de Bourse Direct. Je vous précise que le match des traders est une séquence quotidienne de Tout pour investir à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application BFM Business. À suivre, on va continuer à parler des actualités qui vous concernent en tant qu'investisseur, petit ou grand. À tout de suite.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Tout pour votre argent, le mercredi, avec d'une part Félix Baron, le fondateur du Club des investisseurs indépendants. Rebonjour Félix.
Rebonjour Lorraine.
Et puis Laurent Grassin, directeur des contenus de Boursorama.
Bonjour Lorraine.
Ça va ?
Ça va très bien.
L'actualité est dense, il y a des résultats et il y a des questions rhétoriques qui nous animent, comme par exemple la naissance potentielle espérée d'un Nasdaq européen. Bon, globalement, naissance que Félix ne voit pas du tout programmée.
Encore une fois, l'idée est louable, ça serait de créer un Nasdaq européen pour les deep tech. Donc les deep tech, des sociétés qui travaillent sur des technologies vraiment profondes, par opposition à toutes les SaaS qu'on a vues et à différentes licornes qui ont émergé. C'est louable, mais il faut encore que pour les financer, il y ait de l'argent. Des idées en France, on en a, mais il se trouve que les partenariats public-privé entre les universités, en gros pour passer de la paillasse à la bourse, ce soit aussi dynamique qu'aux États-Unis. C'est pas encore le cas. Pas encore, j'ai de l'espoir. Mais malheureusement, c'est pas encore le cas. Donc d'abord, il faut libéraliser les flux de marché capitaux pour essayer d'arriver à quelque chose.
Vous rappelez quelques multiples, si je puis dire. Le Nasdaq 100, c'est 11 fois le CAC 40. Laurent, qu'est-ce que ça vous inspire, ces projets ? Là, on parle, de manière superficielle, pardon, pour ceux qui nous écoutent, depuis quelques jours, du rapport Noyer et puis du rapport L'État qui devrait tomber d'ici la fin de semaine.
Oui, alors c'est intéressant parce que ces rapports, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ils dressent le constat d'un marché européen qui est fragmenté, effectivement, dans son accès aux capitaux, avec, comme l'a dit Félix, une insuffisance de capitaux, et puis fragmenté aussi dans leur réglementation. Il donne d'ailleurs des exemples qui sont assez intéressants puisqu'il parle notamment des télécoms et de l'énergie. Alors ok, très bien, c'est un constat qui est intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Europe, pendant très longtemps, a eu pour objectif de libéraliser le marché, notamment pour faire baisser les prix du consommateur. Pour le consommateur, très bonne chose. On en a tous profité, notamment Internet en France, on est très contents. Quand vous comparez votre facture Internet avec celle d'un Américain, vous êtes largement gagnant.
On est gagnant.
Et on arrive quelques années plus tard en disant « Ah bah mince, on n'a pas réussi à faire émerger de champion européen ». Bah oui, forcément. C'est-à-dire que ménager la chèvre et le chou, c'est assez compliqué. Donc oui, insuffisance de capitaux. Pourquoi aussi ? À chaque fois, on feint de ne pas voir l'éléphant dans le couloir. D'où viennent ces capitaux aux États-Unis ? De la retraite par capitalisation, essentiellement des fonds de pension, cette capacité à mobiliser de l'épargne de façon récurrente sur le long terme. C'est ça, donc on ne veut pas en entendre parler. Et à la place, on dit, on va faire un produit d'épargne européen, super, qui va flécher l'épargne. On oublie qu'on a déjà essayé de le faire, que ça n'a pas marché, et que ça va être extrêmement compliqué, parce que dès qu'on va vouloir passer de l'étape de l'idée bonne à la réalisation, personne ne va être d'accord. Dans ces rapports, il y a aussi celui d'une supervision européenne des marchés. C'est pareil, j'attends de voir ce que ça pourrait donner. Des rapports qui... je vois des propositions choc et autres. Oui, voyons voir ce qu'elles vont donner d'ici 2 mois. Je pense qu'on n'en parlera plus, malheureusement.
Bon, marché de capitaux pas assez profond, mais aussi, vous nous dites, le besoin d'une réforme des retraites, Félix.
Le besoin d'une réforme des retraites, c'est un serpent de mer. Mais c'est sûr que si on ajoute une dose, comme nos amis allemands, de capitalisation qui y sont favorables... pour sensibiliser les épargnants, quel que soit leur âge par rapport à la retraite, à investir directement dans l'économie réelle, là, la création d'un marché européen, elle a beaucoup de sens et j'y serais largement favorable. Mais j'ai quand même l'impression qu'avant de parler libéralisation, on est déjà en train d'imaginer les normes. C'est très européen, on a des commissaires qui sont payés pour ça. On va libéraliser, mais on va vous mettre des normes quand même pour que ce soit pas trop simple. Et puis, je suis jamais favorable quand je vois quelque chose qui veut flécher l'épargne des Européens. Il y a plus d'argent dans les pays européens. C'est pas une surprise. Et les États sont endettés, ils ont plus un euro dans les caisses. Donc, les derniers qui détiennent du pognon, c'est les épargnants. Donc, on veut flécher leur épargne. Quand on veut flécher leur épargne, on leur met 1, 2, 3, 4 intermédiaires dans
qui
le.
Prennent des frais.
Qui prennent des frais.
Bien sûr.
Et à la fin, ça dégoûte 350 millions d'Européens parce que leur performance à la fin de l'année, ça va être mollement du 4% sur 30 ans. Bon. Donc non, c'est pas bon comme ça.
Le retour de l'Union Européenne de l'épargne et de l'investissement sur le devant de la scène. Le titre du rapport, vous nous le rappelez, Félix ?
Le rapport.
More than the market ?
Non, ah oui, much more than the market. C'est voilà, c'est à mi-chemin entre McKinsey et du bullshit.
Oh. Ou c'est Meskin Club, ça pourrait nous rappeler les succès du Barça. Bon, eh bien très bien, dossier que nous allons continuer à suivre. On continue à parler de tech, mais on repart aux États-Unis avec cette supposition, Laurent. Et si les résultats de la tech nous décevaient, qu'est-ce qui va se passer ?
Bon, là, Félix a fait le constat. Oui, si la tech déçoit unanimement. Je ne dresse pas tout à fait les mêmes conclusions que lui. Si la tech, admettons, hypothèse du pire, la tech déçoit unanimement avec des perspectives qui sont significativement plus basses. Alors, il y a deux niveaux de déception. Là, ouais, c'est super, mais ce n'est pas aussi super qu'on le pensait. Donc ça peut suffire à corriger. Et puis, c'est franchement en dessous de ce qu'on pensait. Si c'est franchement en dessous de ce qu'on pense, là, c'est très mauvais. Moi, je ne crois pas du tout à une redistribution pour aller... Non, je crois que là, tout corrige dans le même temps. Et nous, plus que les Américains, comme à chaque fois d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... On a tendance, et vous en parlez avec les 7 magnifiques, à faire un bloc de la tech avec au final des acteurs qui ont des problématiques un petit peu différentes, je dirais. On voit quand même que Microsoft a repris l'ascendant depuis quelques mois, quelques années. On voit qu'a priori, l'intégration de l'IA dans ses solutions de business a l'air de fonctionner, a l'air de pouvoir être mis à profit relativement rapidement. On voit les services, la rentabilité d'Azure qui se développe. On voit le retour incroyable qu'a fait Meta l'année dernière. Il va falloir qu'il confirme. Et puis, on a des acteurs sur lesquels on peut se poser des questions. Alphabet, qui reste bien sûr très très fort, mais qui finalement, avec le développement de l'IA, voit son modèle peut-être le plus challengé. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait... Moi, j'ai lu ces articles qui sont tombés récemment en se disant mais c'est quand même dingue, les résultats de recherche de Google sont de moins en moins bons. Et c'est vrai, quand on fait le constat en tant qu'utilisateur, c'est rapporté par plusieurs sites américains, le monopole de Google sur la recherche fait qu'ils sont devenus, ils vont pas le dire comme ça, mais peut-être un petit peu feignants. Il y a l'IA qui arrive, donc voilà. Tesla, on en parlait. Tesla, a priori, bon, certes, il y a une bien du bénéfice, mais il suffit qu'Elon Musk dise bon, bah finalement, je vais faire des voitures moins chères. Les investisseurs sont super contents. Donc on voit que même sur la réception des messages. Voilà, donc je ne crois pas à une déception unanime sur la tech. Je ne pense pas à cette hypothèse de vaste correction du marché. Après, il va falloir regarder au cas par cas.
Félix, pour conclure.
Non, mais sur Google, j'aime bien ce que dit Laurent. C'est 25 ans que Google existe. Attention à la ronde de monopole et à la paresse peut-être. Non, je grossis le trait. Mais oui, le cas par cas va être intéressant pour arbitrer entre les sociétés vraiment tech, Nvidia, personne... je pense dans les auditeurs et clients directs de Nvidia. On est clients indirects de Nvidia. Ils font de la recherche pour les éditeurs de LLM, pour les mineurs de crypto-monnaies, etc. C'est, pour l'IA, tout ça, c'est vraiment important.
Il y a peut-être déjà des collectionneurs de puces qui envisagent que ça va valoir très cher dans quelques années.
Oui, non, mais c'est
qui ont gardé des mini-tels,
certainement. Des imprimantes. Mais encore une fois, quand on est client d'Amazon pour un panier de courses ou d'un iPhone 17, enfin, je ne sais pas combien.
15.
Ouais, 15, mais le 17 viendra un jour, je n'en doute pas. Si on veut que les trimestriels d'Apple restent bons. Là, on est plus, encore une fois, sur des effets de grande consommation. Et donc, tant que le nombre de consommateurs est verrouillé par ces entreprises, je pense qu'on n'a pas trop à s'en faire. Mais encore une fois, c'est des résultats qui sont à prendre au cas par cas.
Ouais. On a parlé des foncières avec vous, Félix, parce que vous aimez beaucoup les foncières. D'ailleurs, Mam qui nous suit au quotidien et qu'on salue, nous dit Covivio, c'est Orange. Comprendre ce qu'il faut comprendre.
Covivio, c'est Orange. Alors, je ne sais pas ce qui est Orange. Peut-être le cours de bourse, parce qu'il a perdu. Il a perdu pas mal. Il est aujourd'hui aux alentours de 44 euros par rapport à un actif net de patrimoine qui est à 84, si je ne dis pas de bêtises. Mais Covivio va plutôt pas mal, ils ont réduit leur dette et ils sont sur le point de faire une opération qu'ils ont annoncée pour la fin avril, une offre publique d'échange sur leur filière, leur filiale pardon, d'hôtellerie qui s'appelle Covivio Hotel, qui va leur permettre de réduire leur dette et de reluer, donc d'augmenter leurs bénéfices par action. Donc Covivio va pas si mal. En revanche, le rapport avec Orange, eh bien, je demande à Mam si elle peut nous l'expliquer.
Mam, on a besoin de
faut qu'elle explicite un petit peu.
Il ou elle, on ne sait pas. Oui. On le salue parce qu'il nous écrit tous les jours, ou elle nous écrit tous les jours. Des précisions, s'il vous plaît. Bon, Félix, vous avez vos foncières que vous aimez et Laurent aime la pharma. Alors, un petit mot sur les futurs médicaments stars du diabète et de l'obésité, s'il vous plaît, cher Laurent.
Exactement, les futurs stars du GLP-1. On connaît déjà, effectivement, Novo Nordisk et Eli Lilly. Et l'idée, c'est de se dire, finalement, est-ce que c'est fini? Est-ce que le marché est joué? Alors, non, pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on a bien vu que ces acteurs, aussi gros soient-ils, ont du mal à fournir la demande tellement elle est importante. Et on est en train de constater, Lorraine, qu'au-delà de l'obésité, eh bien, il reste un potentiel d'indication à découvrir. Alors, ça prendra peut-être du temps. Il y a les indications dans le cardiovasculaire, ouais, qui sont les plus évidentes. Et puis, il y a des effets, semble-t-il, à confirmer, sur des études qui seront sans doute longues et qui nécessiteront un grand nombre de patients, des effets neuroprotecteurs dans Parkinson, voire dans Alzheimer. Il faut savoir que, notamment dans Alzheimer, on n'a jamais trouvé de traitement. Si demain, une grosse pharma, encore une fois, au prix d'une étude qui sera longue et coûteuse, arrive à nous prouver qu'il y a un effet protecteur d'Alzheimer pour des patients qui sont sous GLP-1, je ne vous dis pas ce que ça ouvre comme indication. Ce qui veut dire que ce marché reste important, et ce qui veut dire qu'il y a encore de la place pour de nouveaux acteurs. Alors, quels sont-ils, ces nouveaux acteurs?
Qui anticipez-vous?
Attention, précaution d'usage, on va parler de biotech qui sont parfois en early stage, qui sont sur des choses risquées, ça ne va pas forcément marcher. Après cette chronique, n'en prenez pas pour 50% de votre portefeuille, ce serait une erreur. L'idée est de se dire que désormais, encore une fois, l'intérêt sur le GLP-1, ce sera de travailler des combos, des combinés avec d'autres molécules qui vont permettre d'avoir une baisse de poids de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'on va perdre du gras, mais pas de muscle. Ça, avouez qu'on en rêve tous. Et donc, il y a un certain nombre de biotech qui travaillent dans le secteur. Je vais vous en nommer plusieurs. La plus évidente, effectivement, Viking Therapeutics, dont on a parlé parce qu'ils sont sur le même type de classe de produits qu'Eli Lilly. Donc, le cours a déjà beaucoup augmenté. Là aussi, attention, les valorisations ont déjà pas mal augmenté pour certaines. On a Zealand Pharma au Danemark. Donc, on voit que le Danemark a une vraie compétence. Là aussi, une société Zealand qui travaille, elle, sur un mix GLP-1-GLP-2 qui peut être intéressant. On a Structure Therapeutics. Ça, c'est une biotech américaine. Alors, Structure a baissé parce que les résultats ont déçu. La perte de masse grasse était un petit peu moins bonne que ce qu'on attendait. Après, c'est un comprimé oral. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les traitements sont injectables. Donc voilà, soit il y aura, effectivement, c'est aussi un point intéressant, soit il y aura du bénéfice sur le mode d'administration, soit sur les résultats. Et puis, je peux citer deux autres sociétés qui sont en très early stage. Gubra, encore une société danoise. Décidément, ils sont vraiment très forts. On a aussi Neurobo Pharmaceuticals. Ça, c'est une biotech américaine. Et je vous laisse quand même, Lorraine, je conclue sur ce chiffre. Metsera, qui n'est pas encore une société cotée et qui a levé sur un tour A 290 millions de dollars pour des traitements anti-obésité. Donc vous voyez que l'intérêt des grandes pharma, ouais, et la capacité à lever des fonds fait qu'il y a encore de la place. Metsera, pas encore cotée, ça vaut déjà le coup de s'intéresser. De même qu'à Gubra, Structure et Neurobo, encore une fois, avec les précautions d'usage, toujours.
Je reste bloqué sur le montant du
290 millions de dollars.
C'est voilà. Une série A, ça, c'est une série D, non? Pour l'Europe. Félix est sceptique. Laurent, est-ce que vous pouvez juste nous épeler les deux danoises?
Oui, alors Gubra, G-U-B-R-A. Zealand, S-Z-E-A-L-A-N-D.
Voilà.
Zealand Pharma.
Pour ceux qui nous écoutent. Félix, le mot de la fin sur ce sujet.
Si on peut, avec la recherche sur le GLP-1, avancer dans la recherche contre Alzheimer ou Parkinson ou Charcot, moi je suis prêt à payer 500 fois les résultats nets. mais je ne suis pas prêt à arrêter le cardio pour autant.
Voilà, le mot de la fin sur ces GLP-1. Et souvent, on a des auditeurs qui nous demandent ce que c'est GLP-1. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, je vous... Glucagon-like peptide.
C'est une incrétine, figurez-vous. C'est-à-dire une hormone intestinale qui est sécrétée par votre intestin.
C'est ça. Et en fait, elle va donner la sensation de satiété. Et ce qui est assez magique, c'est qu'elle va donc permettre de ne plus avoir faim, avec des effets secondaires assez limités. Mais qu'elle, contrairement à beaucoup d'autres médicaments de ce genre, elle va conserver le plaisir de manger, parce que souvent ces traitements-là, après, on a bon quand
ça
on mange, c'est pas agréable,
l'appétit.
Après, voilà, le GLP-1 se pose la question. Je vais m'arrêter après là-dessus, mais est-ce que c'est des traitements à un moment? Qu'est-ce qui se passe quand on les arrête? Est-ce que ça va être des traitements à vie? Enfin, il y a encore encore une fois, beaucoup de questions. C'est un Eldorado, c'est pas un Eldorado, là aussi, sans précaution à prendre, y compris quand on est investisseur et encore plus patient.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce tour d'horizon de l'actualité financière et patrimoniale qui nous concerne à court ou moyen terme. Félix Baron du Club des investisseurs indépendants et puis Laurent Grassin de l'équipe de Boursorama sur le site sur lequel on peut également se documenter pour être meilleur investisseur, meilleure investisseuse. Cette séquence s'est retrouvée en podcast et en replay. Vous restez avec nous, on marque une petite pub et après Nicolas Dose arrive pour le grand soir. A tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Votre dose quotidienne d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour cher Nicolas.
Bonjour.
Et une question rhétorique. Comment simplifier la relation entre nous, les Français, et notre administration? C'est l'ambition, eh bien écoutez, d'Albert, mis en avant hier par Gabriel Attal, en déplacement à Sceaux dans le 92. Mais qui est Albert?
Le programme d'intelligence artificielle du gouvernement français. Ça a été créé par la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, début d'été 2023, par un ingénieur français. Ça a été déjà expérimenté par Bercy. C'est toujours à Bercy qu'on met en place ces progrès numériques en premier. Albert est censé pouvoir répondre aux 16 millions de questions que les Français posent chaque année sur leurs impôts à l'administration. Et puis en octobre, une expérimentation a été engagée, cette fois-ci au-delà des questions purement liées aux impôts, dans 26 agences France Services, qui sont vraiment des espaces physiques installés dans les villes de France, pour recevoir les Français, cette fois-ci physiquement, et répondre à l'essentiel des questions qui sont les leurs en matière de relations avec l'administration. Et les remontées sont quand même hyper positives. 70% des agents, 70% des usagers sont satisfaits des résultats d'Albert. Dans les trois quarts des cas, c'est beaucoup quand même, hein, les réponses apportées, qui sont des réponses écrites, les réponses apportées par Albert sont parfaitement fiables et ne demandent pas une modification après relecture par un agent public. Les délais ont été sérieusement raccourcis, les délais de réponse, on est passé de 7 jours à 3 jours. Et en plus, les mots utilisés sont des mots normaux, des mots clairs, des mots intelligibles, c'est pas un jargon administratif. Et là où on peut considérer que c'est une vraie innovation, c'est que le produit est là. Là, l'innovation, elle est là, la technologie est là. Et le fait que ce soit là et opérationnel, ça permet d'espérer que cette fois-ci, c'est un saut en avant. Après toutes ces tentatives de promesses de décomplexification qui quelquefois ont été qui ont rarement été tenues, là il se passe quelque chose avec Albert qui va donc connaître une vie nationale et sur tous les sujets.
Albert qui parle dans un langage naturel, né dans les éprouvettes de Bercy. Est-ce que c'est Albert Camus, Albert Cohen, Albert Einstein? Albert Dupontel.
Non, mais il faut que ce soit sympa. C'est comme Amélie pour la Sécu. Il faut que ce soit agréable.
Bon, l'idée de notre Premier ministre et des équipes au travail, c'est d'aller plus loin pour débureaucratiser. Est-ce que c'est un mot qu'on a le droit d'utiliser?
Débureaucratiser
notre pays. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire très sérieusement?
Bon, ça veut dire simplifier toute une série de procédures. Le Premier ministre en a mis trois en avant. Par exemple, simplifier considérablement la procédure lorsqu'il y a un enfant qui arrive dans une famille, au moment de la scolarisation de l'enfant. Par exemple aussi pour les procurations en ligne, c'est déjà possible pour les européennes, mais normalement pour les municipales de 2026, ce sera possible pour tout le monde. Et également simplifier considérablement ce qu'on appelle la solidarité à la source. On a fait le prélèvement à la source. La solidarité à la source, dans la mesure où l'administration connaît votre situation, fait qu'en théorie, on va vous verser automatiquement les aides et les transferts sociaux auxquels vous avez droit. C'est donc un progrès, une simplification. Après, Gabriel Attal a annoncé aussi l'ouverture de 300 maisons France Services supplémentaires pour les porter à 3000. Alors là, cette fois-ci, ce sont vraiment des lieux physiques où on peut aller physiquement rencontrer des vrais individus pour obtenir des réponses à l'essentiel des questions les plus souvent posées entre l'administration et les citoyens. Et puis, il s'est aussi engagé, alors là, on verra, à rendre les services publics davantage disponibles par téléphone. Là, l'idée, c'est qu'en fin 2024, il y a 30 opérateurs publics, comme France Travail, comme la Caisse d'allocation familiale, comme la Police nationale, qui devront atteindre un taux de décroché téléphonique de 85%. Alors, le taux de décroché téléphonique, après, ça ne dit pas si on reste 2 minutes ou 15 minutes avec la petite musique de nuit en boucle en attendant que quelqu'un parle. Enfin, voilà parmi les éléments qui ont été présentés à Sceaux hier.
Bon, on voit, débureaucratiser, ça passe par le physique et le numérique. Hier, toujours, c'est Bruno Le Maire qui dévoilait son plan d'action simplification qui fait l'objet d'un projet de loi qui est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres.
Absolument, oui.
Est-ce que cette fois-ci, vous y croyez à cette arlésienne de la simplification, Nicolas.
Alors, le préambule, c'est que je vais quand même éviter de tuer mécaniquement et presque automatiquement
oui.
l'initiative. On a toujours... C'est très facile quand on commande de dire c'est nul, c'est parce qu'il faut faire, ça ne marchera pas, regardez. Ça... Enfin, Pompidou nous promettait déjà à la fin de la complexité administrative. Bon. On va déjà laisser un peu sa chance au produit. Mais c'est vrai que les précédentes lois de simplification, j'ai retrouvé une loi d'ailleurs qui s'appelait la loi ASAP. Elle date de 2020, tout le monde l'a oublié. C'était accélération et simplification de l'action publique. Ouais. Mm-hmm. Donc, des lois, il y en a eu plein. Des grands acronymes de réforme de l'État, il y en a eu plein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même très insatisfaisant. Alors, ce qui donne des raisons d'y croire, c'est qu'on n'a jamais mis la complexité aussi centrale dans le débat public. C'est que ça a été quand même le sujet de la colère des agriculteurs, l'un des sujets majeurs. Ensuite, l'autre nouveauté que je trouve positive, c'est que pour arriver à ces 50 propositions, qui c'est vrai, sont un catalogue à la Prévert, il y a eu toute une consultation de chefs d'entreprise avant qui avaient la possibilité de faire remonter leurs attentes en matière de simplification. Et puis, encore une fois, idem que pour Albert, on a quand même aujourd'hui une innovation et des outils techniques qui rendent des choses possible et qui peuvent imaginer que dans certains cas, on va réussir à passer de la parole aux actes. D'ailleurs, la CPME a considéré que c'était sans doute un acte fondateur et le MEDEF a considéré avoir été entendu. Alors, c'est vrai que vous avez une liste à la Prévert, mais dans cette liste à la Prévert, vous avez certaines entreprises qui attendent ça, d'autres ça, d'autres ça, d'autres ça. Donc, mise bout à bout, ça donne l'impression d'une sorte de fouillis généralisée. Il y a quand même pas mal d'éléments. Après, j'ai quand même trouvé des raisons de douter. La principale raison de douter, c'est que dans ces 50 mesures, on n'entame pas la sortie de la folie normative. Et en fait, le vrai surcoût, c'est la folie normative. Et donc là, Bruno Le Maire nous explique qu'après la revue des dépenses, on va faire une revue des normes. Donc c'est un peu repoussé au calende. Là, le mot arlésienne reprend ses droits. Comme l'essentiel des normes viennent d'Europe, alors que nous, on surtranspose très souvent, faire machine arrière va être très compliqué. Après, une autre raison de douter, c'est qu'effectivement, j'ai regardé le nombre de lois de simplification, le nombre d'acronymes de réformes de l'État, ça n'a jamais empêché l'inflation normative et l'inflation législative. Et d'ailleurs, la CPME rappelle qu'en 10 ans, on a eu 567 lois, 665 ordonnances, 7451 décrets, comme si en dépit de la volonté politique, il y avait une sorte de machine emballée qu'il est impossible de freiner. Et c'est pas complètement faux. Et puis, je rappelle les différents acronymes. Ce qu'a présenté Bruno Le Maire hier, ça n'est pas du tout une réforme de l'État. Donc attention de ne pas trop y croire. On ne va pas non plus dire que chaque fois qu'il y a une initiative, elle est forcément vouée à l'échec. Après, il y a plein de petites choses. Le fameux « dites-le-nous une fois », par exemple. Vous avez donné une fois des informations à l'administration, elle ne vous les demandera plus jamais. Je croyais que c'était fait. Visiblement, ça va être fait. Bon, bah, si c'est fait, c'est un progrès. Après, il y a des comptes. Bon, c'est vrai que l'histoire du bulletin de paie qui passe de 55 à 15 lignes, c'est un peu de l'enfumage parce que oui, effectivement, ça aurait l'air plus simple sur le papier, mais enfin dans chaque ligne vous avez le contenu qui ne change pas, ce qui veut dire que on a changé le nombre de lignes mais on a gardé le contenu, et c'est le contenu qui est compliqué, c'est pas vraiment la présentation sur le papier.
Bon, voilà, peut-être qu'Albert aura aussi une solution pour ça.
Je sais pas.
Il y avait Albert Londres aussi, ou Albert Uderzo.
Oui, je sais pas.
Il y en a plein d'Albert.
Oui, je savais pas vous dire, lequel c'est.
Merci beaucoup, Nicolas. Voilà, le grand soir de la complexité. Moi, j'ai envie d'y croire, la simplification de notre pays.
On en a jamais autant parlé. Souvenez-vous, il y avait même quelqu'un qui avait tenté une campagne présidentielle, Gaspard Koenig, uniquement centrée sur cette question-là, considérant que c'était la plaie éternelle du pays.
Mais c'est
pas
vrai,
totalement
c'est
faux, mais c'est pas totalement faux. C'est pas la seule, mais c'en est une.
C'est une grosse plaie. Bon.
Mais là, les normes, tant qu'il y a les normes, le compte n'y sera pas, comme on dit.
Cette chronique est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et l'application, et puis surtout sur YouTube, si vous aussi, vous voulez fêter le grand soir de la complexité avec nous. Ça se passe sur YouTube, sur la chaîne BFM Business. À suivre, nous allons nous occuper de votre portefeuille. On va zoomer sur une valeur avec l'équipe Tiepolo.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Et c'est Xavier Milvaux qui est avec nous ce matin. Bonjour, cher Xavier.
Bonjour, Lorraine.
Vous êtes gérant de portefeuille chez Tiepolo. Votre idée de valeur du jour, c'est Biomérieux. Nous allons parler d'une belle entreprise française qui a vu le jour dans les années 60. En quelques mots, Biomérieux, qui est-elle ?
Tout à fait. Alors, Biomérieux, effectivement, c'est une très, très belle société familiale. On peut même remonter au-delà des années 60. Hein. C'est 1897 à Lyon avec l'élève de Louis Pasteur du nom de Marcel Mérieux qui a fondé un laboratoire d'analyse médicale qui est devenu l'Institut Mérieux, et c'est ensuite le petit-fils Marcel, Alain Mérieux, qui a créé Biomérieux donc en 63. On vient donc effectivement, Lorraine, de fêter les 60 ans. L'entreprise fait aujourd'hui partie des leaders du marché dans ses solutions de diagnostic in vitro. C'est pour ça que ça a été créé, Biomérieux, à l'origine. Elle est toujours majoritairement détenue par l'Institut Mérieux, lui-même majoritairement détenu par la famille Mérieux, donc. À ce jour, le groupe est implanté dans plus de 40 pays. On parle de, c'est plus de 14 000 collaborateurs. 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça c'est à fin décembre 23. Pour continuer dans les chiffres, chose importante, ils dépensent plus de 12% du chiffre d'affaires en recherche et développement, point crucial. Ils font partie des 6 grands acteurs du marché. Alors, y en a plus que ça, mais ils sont dans le top 6. Selon les produits dont on parle, les concurrents, c'est Abbott, Becton Dickinson, Roche, Siemens Healthcare, Danaher, Thermo Fisher, Kagen, bref. Et sur certaines applications, ce qui est important, c'est Biomérieux a des positions de leader, comme par exemple dans la microbiologie. Et le but de tout ça, hein, c'est la lutte contre les maladies infectieuses.
Le mot-clé derrière Biomérieux, c'est diagnostic in vitro. Est-ce que vous pouvez rapidement, cher Xavier, nous expliquer les activités plutôt complexes que font, que fait Biomérieux, notamment autour du mot-clé microbiologie?
Alors effectivement, expliquer rapidement, je sais pas, simplement, je sais encore moins, mais pour essayer de faire simple, effectivement, il y a 3 technologies dans le diagnostic in vitro. Il y a effectivement la microbiologie. Alors, on parle ici de mise en culture d'échantillons biologiques, pour identifier les micro-organismes. C'est l'un des objectifs principaux, donc c'est de lutter contre la résistance aux antibiotiques, on en parle beaucoup. Ça fait 35% du chiffre d'affaires du groupe. Là-dessus, Biomérieux est leader mondial. Ils ont à peu près 40% de part de marché selon les estimations. Il y a aussi les immunoessais, une autre technique basée sur le principe d'une réaction immunologique pour identifier les antigènes et anticorps dans un échantillon. Ça, c'est 10% du chiffre d'affaires, c'est plus petit et c'est en moindre croissance. La biologie moléculaire, enfin, qui est le troisième grand pôle, qui s'appuie sur la détection de séquences génétiques d'ADN ou d'ARN pour détecter la nature d'un micro-organisme, des virus, des bactéries par exemple. On est en fait, sans le savoir, devenu assez familier avec la technologie depuis Covid, même si ça remonte bien avant, avec notamment les fameux tests PCR. Hein, ils sont Biomérieux et sont dans le segment depuis l'acquisition de BioFire en 2014. Et aujourd'hui, c'est la plus forte contribution à la croissance. Ça représente 40% du chiffre d'affaires. Et c'était 9% donc à l'acquisition en 2014. Il faut savoir que la majeure partie de ces techniques sont à destination des marchés des cliniques. Alors, c'est les laboratoires, les hôpitaux. Mais une partie de la biologie moléculaire est à destination des marchés industriels. Ça, c'est 16% du chiffre d'affaires de Biomérieux. Ils ont 20% de part de marché. On parle ici des risques de contamination des produits agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques. Et pour finir, pour bien comprendre, au-delà de ces technologies, un élément majeur du business model à avoir en tête, c'est la forte récurrence du chiffre d'affaires du Biomérieux. Sur le modèle un peu des imprimantes cartouches ou des rasoirs et les lames, les ventes de machines d'analyse, donc les équipements, ce qu'on appelle les équipements, ça représente 10% de l'activité seulement. Le reste, c'est, si on met un peu les services de côté, c'est surtout 85% des ventes de réactifs et qui ne fonctionnent que sur des dispositifs Biomérieux. On a donc un modèle très prévisible.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer où en est le groupe aujourd'hui et puis surtout zoomer sur les dernières actualités qui concernent plus directement les investisseurs ou les potentiels investisseurs dans cette valeur ?
Oui, tout à fait. Alors historiquement, c'est une belle histoire de croissance, Biomérieux. Hein. Le marché est en progression régulière. Le groupe a réalisé plusieurs opérations de croissance externe aussi, qui étaient plutôt réussies. Le groupe a été un peu chamboulé par le Covid. Hein. Ils ont joué un rôle très important dans la lutte contre la pandémie. Leur activité donc a beaucoup cru, leur marge également. On l'a vu en 2020-21. Et puis en 23, on a vu quelques stigmates de cette période puisqu'on a assisté à l'effet de base logiquement négatif. Donc les marges ont reculé. Ça, c'était prévu. Est tout à fait normal. Ceci dit, sur la période 2019 et 2023, quoi qu'il en soit, le chiffre d'affaires est quand même passé de 2,7 milliards à 3,7 milliards d'euros. Mais surtout, ce qui est important à avoir en tête, c'est que les besoins de systèmes ont créé une demande bien sûr très forte et ont eu pour effet d'augmenter la base installée à travers le monde. Donc par rapport à 2019, la base installée est globalement en hausse de 23%, ça c'est tout produit confondu, et on a même eu un x2,5 dans la partie biologie moléculaire en forte croissance donc. Et étant donné le caractère vertueux du modèle d'affaires que je viens d'évoquer, ça va avoir une incidence forte sur l'activité des prochaines années. Autre information importante, la gouvernance a évolué en juillet 2023. Alexandre Mérieux reste président, mais a confié la direction générale à Pierre Boulud dans le groupe depuis 2016.
Alexandre Mérieux, qui est le fils du petit-fils, si je ne dis pas de bêtises. Un des trois fils du petit-fils. Bon, un mot, je vous disais, sur les actualités du groupe qui nous concernent plus récemment, on va dire.
Effectivement, alors très récemment, la société a organisé une journée pour les investisseurs en présentant en fait un plan à horizon 2028. L'organisation d'un tel événement, déjà en soi, c'est un aspect intéressant hein, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu de plan. On avait une visibilité forte, mais une communication plutôt timide. Ce sont des gens discrets. Et rien que le fait de communiquer comme ça démontre que le marché a évolué, que les perspectives se sont renforcées, et puis c'est jamais défavorable en bourse et ça prouve que les perspectives sont très très engageantes.
Vous allez nous parler de perspectives en détail si possible rapidement aussi, Xavier.
Ouais, qu'est-ce tout qu'il faut à fait. Alors le plan s'appuie comme vous l'avez compris sur une nouvelle dynamique. C'est tous les pôles qui seront en croissance. Bien sûr, en biologie moléculaire, ça va aller très fort suite à cette base installée dont je vous ai parlé. Pour aller directement aux chiffres, la croissance organique moyenne des ventes devrait s'établir à 7% par an entre 2024 et 2028. Ça, c'est très 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 bon, très engageant. Et puis, tout ça... Alliée à des effets, des programmes d'optimisation des coûts qui sont d'ores et déjà lancés, ça permettra à la marge opérationnelle d'atteindre 20% à cet horizon 2028 contre 16,6 en 2023. Donc ça fait 10% de hausse par an. Donc voilà.
Vous allez, pour conclure, nous expliquer pourquoi il n'est pas trop tard pour s'intéresser à cette valeur. Puisque, bon, c'est un groupe qui marche bien depuis longtemps, on le voit qui investit dans sa R&D, etc. Pourquoi on irait maintenant et pourquoi c'est pas trop tard?
Alors, on va y aller maintenant parce que comme souvent, le cours de bourse a suivi les agrégats financiers. On a donc fait un plus haut en 2021. Depuis, le titre a retracé. Donc, rendant la performance réalisée pendant le Covid, on est aujourd'hui donc à peu près au niveau d'avant Covid, pour faire très simple. Les fondamentaux, vous avez compris, ils sont pas plus du tout les mêmes, ils sont considérablement renforcés. La base installée a cru fortement, gagnant plusieurs années d'adoption. Les habitudes d'utilisation des systèmes se sont accrues, j'en ai pas parlé, mais enfin, c'est un fait. La gouvernance est plus équilibrée, la communication s'est améliorée, les nouveaux systèmes ont été mis sur le marché, nouvelles indications sont couvertes. On a maintenant un plan clair avec une croissance et une augmentation des marges. Alors évidemment, tout ça, faut rebaser avec la hausse de taux qui est là. Tout ceci semble pouvoir constituer une opportunité plutôt très intéressante, selon nous, sur un groupe très bien géré, extrêmement solide et avec une visibilité assez hors du commun.
Voilà, une belle gouvernance et de la visibilité. Ça, c'est ce que vous appréciez, cher Xavier Milvaux de l'équipe Tiepolo avec nous au décryptage, au portrait de Biomérieux, jolie entreprise française. Merci beaucoup à vous et votre équipe, Xavier. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Si vous voulez en savoir plus sur Biomérieux, pour la suite, nous allons nous occuper de votre culture financière et réfléchir aux bonnes bases d'une stratégie d'investissement. Ça se passe dans quelques secondes depuis la Belgique avec Grégory Guillemin. À tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
Notre coach ce mercredi, c'est Grégory Guillemin. Bonjour cher Grégory.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le fondateur de la bourse Make It Easy. Vous allez rendre l'investissement easy pour nous et nos auditeurs en quelques minutes. Vous nous coachez aujourd'hui sur ce qu'on pourrait qualifier de bonnes bases d'investissement. Quelles sont les bonnes bases d'une stratégie d'investissement? Vous allez nous lister les choses qu'il faut bien définir avant de faire un choix d'investissement. Par quoi on commence?
Bah, par contre, on commence, en fait, effectivement, il faut d'abord réfléchir en termes de stratégie. Est-ce qu'on est un gestionnaire actif, comme la personne qui est intervenue juste avant pour parler de biomérieux et croire en biomérieux et investir de manière active en biomérieux? Ou est-ce qu'on est un investisseur passif plutôt à investir dans des fonds d'investissement passifs qui vont répliquer justement des indices boursiers? Ça, c'est la première question à se poser. On peut faire un petit peu des deux. Moi, ce que je dis souvent, c'est d'avoir une base importante, peut-être 70-80% de gestion passive pour les particuliers qui nous écoutent, et avoir 20-30% peut-être en gestion active. Mais pour ça, ça demande du temps, des ressources, et on le sait aussi, les études montrent que les analystes financiers, les gestionnaires, malheureusement, 90% d'entre eux n'arrivent pas à battre la bourse à long terme. Deuxième allocation, c'est quoi? C'est l'allocation d'actifs. Et là, on va essayer de titiller la tolérance à la volatilité de chaque personne. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir se poser la question, j'ai 10 000, 50 000, 100 000 euros à investir en bourse. Jusqu'à quel niveau de volatilité je suis prêt à accepter? Imaginons que la bourse, comme en février-mars 2020, chute de 34%. Est-ce que je suis capable de vivre avec ce moins 34%? Oui ou non? Et là, ça dépend vraiment de la tolérance à la volatilité de chaque personne. Il y a des jeunes comme moi, je m'estime encore jeune, qui ont justement, qui ne sont pas capables de vivre avec la volatilité. Et je connais des personnes de 65-70 ans qui sont capables d'avoir un portefeuille 100% dans des actions, dans des ETF actions, et qui sont prêts à vivre avec la volatilité du marché des actions.
Voilà, vivre avec la volatilité ou pas, c'est un choix très personnel. Il y a aussi où on met ses billes. On choisit une zone géographique. Parfois, on n'en choisit pas quand on s'investit mondialement ou de manière aussi diversifiée géographiquement que possible. Rappelez-nous les bases d'une allocation géographique.
Donc, concernant une allocation géographique, en fait, c'est important de se poser la question de dans quel zone géographique j'ai envie d'investir. Je vais vous donner quand même quelques chiffres parce que c'est une allocation qui est toujours difficile à estimer. Est-ce qu'il faut être investi fortement en Asie, fortement aux États-Unis, en Europe? En fait, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'on a des convictions? Si on n'a pas de convictions, ben on va regarder les grands équilibres mondiaux. Ben, les grands équilibres mondiaux, ça va être par exemple la capitalisation boursière. Si on regarde au niveau mondial, les États-Unis représentent environ 50% de la capitalisation boursière mondiale. À l'heure où je vous parle, c'est la capitalisation boursière mondiale, c'est quoi? C'est 110 000 milliards de dollars. La moitié, c'est aux États-Unis. Environ 20%, c'est en Europe, et 30%, c'est en Asie. Alors, il y a un tout petit peu en Amérique latine et un petit peu également en Afrique, mais c'est très léger. C'est pas plus au total de 2%. Donc là, il faut se poser la question, est-ce que moi, je souhaite avoir une allocation comme, je dirais, les pondérations mondiales, ou est-ce que j'ai plus de convictions aux États-Unis? Alors, plus de convictions aux États-Unis, je vais peut-être avoir 60, 65, 70% aux États-Unis. Souvent, les gens me disent, ah oui, mais en fait, les États-Unis, sur les 15 dernières années, ça a fait 15% annualisé, ce qui est la réalité. Donc, je vais y aller franco, mettre 70, 80% aux États-Unis. Mauvais réflexe, selon moi. Pourquoi? Parce que les marchés sont cycliques. Souvenons-nous qu'entre 2000 et 2009, les États-Unis ont moins bien fait que les pays émergents. Souvenons-nous qu'entre 1990 et 2000, les États-Unis faisaient mieux. Donc les marchés sont cycliques. Sur les 15 dernières années, les États-Unis ont fait mieux que partout, sauf l'Inde. Est-ce que les États-Unis vont mieux faire les 15 ou les 20 prochaines années que les autres zones géographiques? Je n'en sais rien. C'est pour ça que moi, je suis très bête, entre guillemets, dans ma décision, c'est de dire, je réplique ce que le poids des places boursières. Les États-Unis, c'est 50%, et j'ai 50% dans mon portefeuille. L'Europe, 20%, 20% dans mon portefeuille. L'Asie, 30%, 30% dans mon portefeuille, pour le meilleur et pour le pire.
Grégory, on est un peu pris par le temps, mais il y a deux autres aspects pour conclure sur la manière dont on peut définir une bonne stratégie d'investissement. Il y a les secteurs. On vient de passer très longtemps sur la valeur biomérieux. On parlait du médical, de la santé. Comment on choisit un bon secteur rapidement?
Alors, très très rapidement, les bons secteurs, en fait, est-ce qu'on a une conviction sur un secteur en particulier, oui ou non? Si on a des convictions sectorielles, on peut mettre peut-être des poids de 15-20% dans un secteur ou dans plusieurs secteurs en particulier, mais il ne faut pas avoir son portefeuille réparti dans trois secteurs en particulier. Non, selon moi, c'est important d'être exposé à tous les secteurs ou à beaucoup de secteurs ou d'en éviter certains si on ne croit pas en certains secteurs. Mais c'est important de toujours repartir de vos convictions. En termes de convictions, pour parler de la dernière allocation, c'est les convictions en termes de taille. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aujourd'hui, 80% des sociétés qui sont cotées en bourse sont des small ou des mid-cap, des petites sociétés avec des petites ou des moyennes capitalisations boursières. Ça représente environ 15% de la capitalisation boursière mondiale. Est-ce que vous voulez investir uniquement dans des grosses sociétés ou également dans des petites et moyennes sociétés? Ben moi, je réplique encore une fois bêtement ce que dit les pondérations mondiales en disant 85%, c'est principalement des grosses sociétés, 15%, c'est ce qu'on appelle des small mid-cap. Eh ben, moi, je suis cette pondération-là. Et si vous répondez à ces cinq pondérations-là, ben vous allez être capable, après, d'aller sur justetf.com, par exemple, pour trouver des ETF qui... pour faire vos devoirs, effectivement.
Voilà, vous nous avez aidé à faire le point gestion active, gestion passive, sa tolérance à la volatilité, les zones géographiques par lesquelles on est convaincu, les secteurs qui nous convainquent aussi également, puis les tailles des sociétés qui nous intéressent. Tout ça est une question de conviction. Merci beaucoup, Grégory, pour ce coaching sur comment bien définir une bonne stratégie d'investissement. C'est bien de se poser régulièrement ces questions pour affiner son portefeuille. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Nous sommes un petit peu en retard, excusez-nous. La pub à suivre et ensuite le point info. Et puis on s'occupe de faire aussi le point sur les marchés avec Antoine d'ici quelques secondes. A tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles chaque jour de 10h à midi à la radio, à la télé et sur le web sur BFM Business, mais aussi à toutes les heures de la journée en podcast et en replay. Bonjour à vous qui nous écoutez peut-être en dehors de France. Le programme de l'heure à venir, c'est l'immobilier évidemment, comme tous les jours dans l'émission. Nous allons parler de 7 milliards d'euros. C'est la valeur de tous les biens immobiliers des Français. C'est trois fois le PIB de la France. On parlera financement immobilier avec Marie Cœur de Roy et notre invitée, la start-up Aubaine. On investira dans le sport aujourd'hui. Les retombées économiques attendues pour les Jeux Olympiques pour la France sont autour de 6 millions d'euros. Comment et sur quel segment investir pour capturer ces tendances en France, bien sûr, mais aussi dans le reste du monde. Vous savez, c'est l'euro aussi en Allemagne. Nicolas Kieffer de Montpensier Finance sera avec nous. Avant le sport, il y aura vos impôts. Notre question réponse du jour portera sur votre déclaration de revenus, ce qu'il faut savoir, les pièges à éviter. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos, sera avec nous. Cette séquence est à 11h30 dans vos oreilles et dans vos yeux sur BFM Business et dès vendredi dans votre journal papier ou numérique Les Échos. Au programme, il y a vous. Vous avez la parole tout au long de l'émission. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn comme Emmanuel, Belkacem ou Paul. Vous pouvez encore nous joindre par email comme Artoff, qui a ouvert un compte titre chez un broker en ligne en janvier. Il voudrait savoir s'il doit le déclarer dès maintenant, ce compte en ligne, ou bien s'il peut attendre l'année prochaine. Artoff, on va vous répondre avec Marie-Christine sur les coups de 11h30. C'est le moment de partir à Euronext. Rejoins Antoine. Cher Antoine, on vous retrouve depuis Euronext et c'est toujours un peu laborieux ce matin. On reste dans une hausse, hein, mais une petite hausse.
Plus 0,2% pour le CAC, effectivement. On reste au-dessus des 8100 points, ça aussi c'est important, 8122 points, mais c'est la journée des grands écarts. Déjà, si vous regardez en termes de performance entre les secteurs, parce qu'on a un CAC 40 donc, qui grimpe de 0,2%, l'Euronext Tech Leader grimpe d'1,7%. Donc la high-tech est vraiment, vraiment achetée aujourd'hui, contrairement au reste du marché. On a des hausses un tout petit peu plus conséquentes du côté de l'Eurostock 50 qui gagne 0,3%. Vous voyez, le DAX à Francfort fait 0,25%. 5% de progression. Non, tout ça est dû au deuxième grand écart du jour, le grand écart de performance en matière de publication d'entreprise hein, ces dernières heures. Et c'est vrai que, par exemple, si on regarde le secteur des semi-conducteurs, c'est le mieux orienté du jour. Hein. ST Micro gagne 5,59% à 39,30€. Si on regarde sur le SBF 120, on a Soitec qui prend 3,5% à 93,40€. ST Micro, donc X-Fab Silicon Foundries qui gagne 7,2% à 7,05€. Enchaînement de bonnes nouvelles hein, entre hier soir et ce matin, notamment les très bons résultats de Texas Instruments aux États-Unis, ceux d'ASML ce matin en Europe. Et donc, on a tout un secteur qui signe vraiment d'excellentes performances, mais suivi de près par le reste des technos, hein, puisque Dassault Systèmes gagne 1,3% à 39,01€. Et puis, on a également d'autres secteurs qui sont achetés, comme les secteurs les plus industriels, hein, qui étaient un peu en retrait hier. ArcelorMittal, en particulier, gagne 1,4% à 23,80€. Mais alors, à l'autre bout de l'arc-en-ciel, si j'ose dire, on a Kering qui perd 8% à 322,15€, malgré son warning de ces dernières semaines. On a quand même un groupe qui signe des performances assez laborieuses hein, sur le trimestre écoulé, et puis qui prévoit aussi une baisse marquée de sa rentabilité. Donc ça, le marché pardonne pas, c'est la double peine un petit peu. Et puis derrière, on a l'ensemble du secteur du luxe qui résiste un petit peu mieux quand même. On a LVMH et Hermès qui sont en hausse. Mais tout ça se conclut par un CAC 40 qui n'est que sur une très légère progression, plus 0,2%. On est à 8121 points et l'euro face au dollar cote à 1,0689. Florent.
Antoine, on continuera évidemment à suivre ce CAC 40 une grosse partie de la journée sur notre antenne, mais on va parler tech puisque notre CAC 40 surnage grâce à la tech, et nous allons zoomer sur Tesla. C'est l'heure de votre histoire.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Encore une histoire d'Elon Musk, en particulier de Tesla ce matin. Les résultats du constructeur étaient très attendus. Après les annonces de baisse de prix, les annonces de suppression de postes, hein, près de plusieurs milliers de postes au Texas. Mais les performances trimestrielles étaient quand même très très alarmantes, ça on peut le dire. Et pourtant, eh bien, les marchés applaudissent à nouveau. Comment dire, envoûtés par Elon Musk. Racontez-nous.
C'est un petit peu ça. Effectivement, le titre gagnait 13,3% après la clôture de Wall Street. Après, déjà, un score convenable, plus 1,8% en clôture. Mais effectivement, après toutes les annonces qui ont été faites par le constructeur, l'ensemble des analystes, déjà, avaient un niveau de prévision très, très bas. On est encore plus bas, en fait, sur le premier trimestre, à 45 cents de bénéfices par action contre 51 espérés. Et puis, surtout, baisse des revenus, hein, du chiffre d'affaires, 21 milliards de dollars de revenus contre plus de 22 prévus par le consensus. Donc, vraiment pas fameux. Et pourtant, il y a quand même trois aspects qui font bondir le titre. Alors déjà, l'annonce, et ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle, d'un renouvellement de la gamme. Enfin, avec l'arrivée en production dès l'année prochaine, alors d'une nouvelle plateforme technologique qui va permettre de lancer, alors on en a beaucoup parlé, une Tesla pas trop chère, mais on a Elon Musk qui nous parle de plusieurs modèles. Et ça, c'est peut-être l'information, hein. On parle vraiment de plusieurs véhicules. Donc, nous y voilà, parce que rappelons que si on met un peu de côté le Cybertruck, qui est un petit peu à part quand même, la gamme Tesla, elle n'a pas évolué depuis 5 ans et le lancement du modèle Y, c'est toujours les mêmes voitures. Oui. Donc, il était temps que le renouvellement se fasse. Il y a eu le mot magique aussi, IA, le groupe qui annonce une vraie accélération des investissements dans l'intelligence artificielle, dans l'architecture informatique des Tesla. Et ça, effectivement, c'est l'histoire que le marché veut qu'on lui raconte. Donc Elon Musk l'a emballé dans son discours. Tesla qui dément aussi, c'est un aspect technique mais qui est important, s'être allégé en bitcoin. Non, son petit trésor de guerre est toujours là, 9700 bitcoin environ. Donc on craignait que le groupe s'en soit défait et n'ait pas profité de la hausse récente. Ben, c'est pas le cas, hein. Le groupe reste exposé au bitcoin de manière modérée. Et puis, j'allais dire, c'est peut-être l'aspect le plus important, c'est la technique derrière ça. Parce que l'action Tesla a tellement été vendue à découvert ces derniers temps, elle perd quasiment 50% hein, depuis le début de l'année. Elle a été tellement shortée que les intérêts pour shorter l'action ont bondi à des plus hauts de 3 ans ces derniers jours. Donc forcément, il y a un phénomène de ce qu'on appelle short squeeze avec ces annonces. On ne pouvait pas aller plus bas, on ne pouvait pas avoir des résultats plus calamiteux. on nous vend de l'IA, on nous vend un renouvellement de la gamme, on nous vend une Tesla abordable, ben forcément, là, on avait des investisseurs qui étaient au rachat. Et du fait de ce short squeeze, ben ceux qui étaient vendeurs sont obligés de racheter deux fois plus. Mmh. Donc, c'est ça qui explique cette très forte hausse du titre qui, quand même, parallèlement, perd 40-50% depuis le début de l'année et qui est même au plus bas depuis un an. Donc, c'est un petit peu la chasse aux bonnes affaires du côté de Tesla.
Voilà, mais des promesses d'Elon Musk que tout le monde trouve toujours géniales. Heureusement qu'on ne lui a pas posé trop de questions sur comment le futur des robots taxis. Parce que, bon, sans autorisation du gouvernement, ça va être compliqué.
Oui,
ce
non,
projet.
Ça aurait été compliqué, là.
Merci Antoine. À plus tard pour continuer à décrypter la séance en cours côté CAC 40. À demain dans Tout pour investir. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay, y compris évidemment l'histoire d'Antoine tous les jours. Il est largement l'heure de parler immobilier dans Tout pour investir. Marie Cœur de Roy nous a rejoint et nous ne sommes pas seuls. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO, la place du patrimoine et surtout un mot-clé, monétiser ce patrimoine. C'est l'objet de notre séquence avec vous, Marie Cœur de Roy, bonjour.
Bonjour Lorraine.
Avec Arthur Langlais, le cofondateur d'Aubain, que j'appelle pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast, O-B-E-N. L'idée, eh bien, c'est de transformer son immobilier en argent sonnant et comptant. Est-ce que c'est ça le pitch d'Aubain ?
Exactement Lorraine, bonjour Marie, bonjour Lorraine. C'est exactement ça. En fait, il y a un constat qui est simple, c'est que les Français sont deux fois plus riches que les Allemands. Alors, ça surprend, mais ça vient en fait d'un fait qui est que
notre patrimoine.
Exactement, celui-là même. En fait, les Français sont assis sur un véritable tas d'or, puisque leur bien immobilier, en fait, si on fait la somme de toutes les maisons et de tous les appartements en France, on arrive à plus de 7 000 milliards d'euros, presque 8 000 milliards d'euros.
7 000 milliards d'euros.
Et oui, c'est considérable, mais il y a un paradoxe.
Pour peu qu'on soit propriétaire, évidemment, Arthur.
Pour peu qu'on soit propriétaire, évidemment. Mais alors, il y a un paradoxe qui est assez fou, c'est que dans ce pays de propriétaires qu'est la France, il n'y a aucune manière, en fait, de tirer profit de ce patrimoine-là. Donc, qu'on s'est constitué, toute sa vie, on a épargné, on s'est même endetté pour se le constituer. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en servir pour financer ses projets.
Et justement, alors, donc vous arrivez avec une solution pour monétiser ce patrimoine qui a, au final, qui nous rapporte pas quand on y vit. En tout cas, on se rend bien compte de la valeur de ce patrimoine. Comment, c'est quoi votre technique, j'ai envie de dire, de manière mathématique, pour monétiser ma maison? On rêve que je suis propriétaire d'une maison, là.
Non, mais c'est exactement ça, Marie. En fait, Aubain, c'est la première solution qui permet donc à tous les propriétaires de financer tous leurs projets de vie grâce à leur bien immobilier. En fait, en vendant des parts de propriété, 10, 20, 30, 40% de leurs biens.
Jusqu'à 40%?
Jusqu'à 40%, en sonnant et trébuchant tout de suite, tout en continuant à utiliser leurs biens exactement de la même manière.
Oui, c'est-à-dire, je suis pas en train de vous vendre deux chambres et ma salle de bain, là. Vous allez pas venir occuper mon espace, quand
non,
même.
Non, exactement. Je vais pas venir habiter dans votre salon. Et vous allez rester pleinement propriétaire. En fait, on fait clairement la différence entre la propriété et l'usage. Donc nous, en fait, on va prendre un morceau de la propriété de votre...
Vous allez devenir actionnaire, quoi.
Exactement, c'est un peu ça l'idée.
Mais c'est un mix entre de la titrisation et de l'hypothèque, en fait.
C'est un peu ça, sauf que ça repose sur un concept qui est vieux comme le monde, qui s'appelle l'indivision. Mmh. Voilà, qui a été inscrit dans le Code civil par Napoléon en 1804, donc c'est un modèle qui a été bien éprouvé depuis.
J'arrête pas de parler du Code civil en ce moment.
Et ben voilà, encore une fois, il nous sert.
Mais alors, du coup, le principe quand même, c'est que j'imagine que vous faites pas ça gracieusement et que vous n'êtes pas là pour rester copropriétaire de mon logement pendant ad vitam aeternam.
Alors, c'est une bonne question. Effectivement, nous, notre maître mot, c'est quand même la flexibilité. C'est-à-dire que le propriétaire donc, qui débloque des fonds avec nous va avoir plusieurs choix qui s'offrent à lui. Tout d'abord, il va choisir le montant qu'il veut débloquer, jusqu'à 40%, on le disait juste avant. Il va choisir aussi comment il veut rémunérer le capital, puisqu'effectivement, il faut rémunérer ce capital qui est fourni par des investisseurs en immobilier. Donc là, il a plusieurs choix. Soit il décide de devenir locataire du morceau du bien qu'il a vendu, donc en payant comme un petit loyer tous les mois.
Sur la partie que j'ai vendue, ça ressemble un petit peu au système qu'on fait là sur les trucs qui ressemblent plus ou moins pour les personnes âgées, quand j'essaie de récupérer un peu d'argent pour mes vieux jours, et que c'est un peu l'idée, non ?
C'est un peu ça, sauf que nous, évidemment, on s'adresse à tous les propriétaires, pas que les personnes âgées. Mais voilà, ça, c'est un petit peu l'idée. Et la deuxième solution que le propriétaire peut choisir, s'il n'a pas envie de payer quelque chose tous les mois, c'est tout simplement de céder une part de propriété légèrement supérieure à celle qu'il a débloquée.
Donc, en gros, je te vends, Arthur, 10%, mais en réalité, tu es propriétaire de 12%.
Par exemple, exactement.
Mais c'est risqué quand même, non ?
Parce que
ben, admettons, on prend votre exemple, admettons que vous m'achetez aujourd'hui 10% d'un bien qui vaut tant. Le moment où je vais vous racheter cette part, parce que j'imagine encore une fois que l'engagement n'est pas éternel, ce ne sera pas 10% que je devrais vous rembourser, mais 12, et à la valeur, j'imagine, du moment où je vais vous racheter la part.
Exactement. Et du coup, ça va dans les deux sens. Évidemment, si votre patrimoine et votre bien immobilier vaut plus cher, la part vaudra elle aussi plus cher. À l'inverse, si vaut moins cher, on est solidaire avec vous, la part, elle, diminuera en valeur.
Parlez-nous de vos clients, alors B2B et B2B2C quelque part. Qui vient faire appel à vous? Quels sont les personas?
Eh bien en fait, concrètement, ce sont tous les propriétaires. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, avec la hausse des taux, les crédits sont devenus très chers. Les banques, en fait, ne veulent plus financer les Français. Il y a plus de 50% des plus de 30 ans qui ne peuvent pas emprunter. C'est quand même assez dingue. Donc, on a évidemment des seniors, des gens qui veulent faire des travaux, des personnes qui souhaitent changer de bien et qui ont besoin de se constituer un apport pour acheter leur nouvelle résidence. En fait, voilà.
Adapter leur logement au vieillissement. C'est pour ça que je vous parlais des solutions limites viagères qu'on a aujourd'hui pour les personnes âgées. Mais c'est vrai que l'idée de monétiser son patrimoine quand on a un coup dur, quand on veut réadapter son logement, quand on n'est pas aidé, quand on n'a pas de crédit, c'est souvent quand même des personnes plutôt fragiles financièrement ou alors qui sont plutôt en fin de vie ou en début de fin de vie. Je ne veux pas heurter les seniors qui nous écoutent, mais qui ont du mal à débloquer ou à ne avoir accès à un crédit immobilier auprès de la banque. Donc, est-ce que vous n'avez pas particulièrement en ce moment des personnes, même pas en ce moment, mais dans l'absolu, des personnes qui ont ce profil-là?
Bah en fait, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est une idée reçue, mais pas du tout. Parce qu'on a aussi des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, ouais, qui n'ont pas leurs 3 ans de bilan pour aller emprunter à la banque. On a même des seniors qui vivent en soi très bien et qui ont envie juste de vivre mieux et on les comprend.
Ils ne sont pas dans une vraie difficulté, mais qui ont envie de davantage.
Exactement, exactement.
Une réflexion, si je pense qu'on veut arrêter de heurter les seniors, peut-être essayons d'arrêter d'utiliser ce mot senior qui est quand même moche comme tout et qui couvre quand même des réalités économiques très diverses, mais c'est une réflexion à voix haute. Je voudrais revenir sur ces 50% des plus de 30 ans qui ne peuvent pas emprunter. Vous étiez en train de lister les profils, justement, Marie-Arthur. On n'est pas seulement sur des gens qui ont une difficulté d'accéder au crédit, c'est aussi des gens qui, professionnellement, par définition, n'ont pas accès au crédit. On pense à tous les entrepreneurs, tous les indépendants. Dans une société où il y a peut-être moins de gens en CDI, est-ce que le futur, c'est ça? En fait, on va titriser sa maison pour pouvoir récupérer de l'argent plus comptant, on va dire.
C'est exactement ça, Lorraine. En fait, le principe, c'est de dire, écoutez, peu importe votre métier, vous avez constitué un patrimoine, vous êtes endetté, vous avez épargné, vous avez payé pour votre bien toute votre vie. Maintenant, l'idée, c'est que ce bien se mette à payer pour vous.
Bon, il y a des risques quand même. Je suis désolée, on en parlait hors antenne, Arthur. Encore une fois, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? C'est-à-dire que je prends des risques quand même. Là, alors certes, on est sur un marché baissier, donc est-ce que la valeur du patrimoine va continuer à baisser longtemps? C'est pas sûr. Est-ce que vous avez ce profil-là aussi de faire le tri des propositions que vous pouvez avoir? Parce que vous nous dites qu'effectivement, vous avez des ménages qui sont pas forcément en difficulté, mais il peut y en avoir, j'imagine.
Bien sûr.
Est-ce que typiquement, c'est plutôt une solution pour des gens qui veulent mieux, mais qui sont pas dans la difficulté? Est-ce que c'est quelque chose à éviter quand on est un peu fragile?
Bah alors, effectivement, Marie, c'est un vrai sujet et il faut étudier quand même le profil financier des propriétaires avec lesquels on travaille. Le but, c'est évidemment pas d'aller jouer au casino l'argent qu'on a débloqué après de passer voir aubaine. Ça, c'est un vrai sujet et donc ça, c'est notre travail aussi, évidemment.
Est-ce que c'est pour ça aussi que vous vous fixez cette limite de 40% de la valeur du patrimoine?
Exactement. En fait, on veut vraiment aussi que le propriétaire se sente encore chez lui. C'est important, c'est lui qui va continuer à régler toutes les charges afférentes au bien. C'est lui qui va l'entretenir et donc pour l'investisseur c'est très rassurant de savoir que la personne qui s'occupe du bien c'est le propriétaire et que les intérêts sont vraiment alignés.
Bon, je vais vous parler concurrence maintenant, forcément, Arthur, parce qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps le patron de Vasco qui fait à peu de choses près la même chose, sauf que lui il dit, moi l'argent que je vais débloquer, la partie de valeur de votre patrimoine que je vais débloquer, c'est pas pour tout et n'importe quoi, c'est uniquement pour financer vos travaux de rénovation. Vous nous dites que c'est plus large que ça, c'est en cas de besoin. Je ne sais pas de quand vous datez en termes de naissance, mais est-ce que c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises ou quelques entreprises qui naissent sur ce modèle-là, sur cette monétisation de notre patrimoine, est-ce que ça correspond aussi au moment? Est-ce qu'il y a quelque chose actuellement qui fait que...
Ben exactement, Marie, effectivement, plus on voit émerger d'acteurs, plus on se rend compte qu'il y a un vrai sujet. Et effectivement, Vasco, c'est une très belle entreprise, mais en fait, on fait pas vraiment le même métier, puisque eux, effectivement, sont très concentrés sur les travaux de rénovation énergétique, avec, du coup, tout un cœur de métier qui tend à se concentrer sur l'augmentation de du fameux DPE, donc pour passer de...
Oui, mais en termes de business model, alors je vais faire un peu de B2B, là, mais en termes de viabilité d'entreprise, moi, c'est une question que je me pose, puisque Vasco a l'argument de dire que a priori, il sera gagnant, puisque lui va permettre de valoriser le patrimoine. Qui vous dit, vous, qu'en l'occurrence, vous avez un plus gros point d'interrogation, disons-le, que Vasco sur quand il y aura la sortie, quand il y aura le rachat de parts, le bien aura pris de la valeur. Là, ils se garantissent quelque part, j'ai envie de dire, une forme de rentabilité en améliorant la performance énergétique et donc potentiellement la valeur du bien.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais la rénovation, c'est un vrai sujet. Et effectivement, ça permet de faire croître la valeur du bien. Néanmoins, il faut garder en tête que du coup, tu parlais des risques tout à l'heure, ça coûte quand même plus cher. Si jamais on doit racheter la part après, il faut quand même le garder en tête. Ça reste un sujet.
Donc il y a la fragilité du client en fait aussi. Ouais.
Voilà, donc après chacun fait son métier. Je suis sûr que là pour le coup, Vasco fait le sien. Hein. Mais effectivement, nous notre parti pris c'est vraiment de dire, écoutez, oui. Vous pouvez faire des travaux, faites des travaux. On encourage tout le monde à faire des travaux de rénovation énergétique lorsqu'il y a des travaux de rafraîchissement du bien. On a quand même, nous, cette conviction que c'est l'argent des propriétaires en réalité. Et que s'ils ont envie
d'en faire
des travaux, mais aussi en fait, de financer un beau voyage parce que en fait, c'est leur rêve depuis 15 ans et qu'ils ne peuvent pas se le permettre, allez-y.
Mais justement, je rejoins sur la question de Lorraine tout à l'heure sur le profil de ceux qui font appel à vos services. Est-ce que vous savez aussi ce qu'ils en font de cet argent?
Bien sûr. Bon, évidemment, ils nous le disent, après on n'est pas dupes, mais effectivement, en fonction des projets, on peut tout à fait flécher en fait, le déblocage de fonds pour savoir exactement...
Alors c'est quoi Arthur? Ils en font quoi? Est-ce que c'est vraiment les travaux? Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est...
Alors, on a pas mal de cas d'usage. On a eu des propriétaires qui ont débloqué de l'argent pour augmenter leur apport, pour acheter leur nouveau bien. Ça, c'était...
Pas mal.
Ouais, sympa. On a eu aussi une personne qui en fait avait un projet pro et qui n'était pas suivi par sa banque. Et donc, avec nous, elle a pu débloquer des fonds tout en continuant, et ça c'est assez intéressant, à mettre son bien en location pour toucher tous les loyers, plutôt que de le vendre tout de suite et de le vendre en plus moins cher parce qu'il était occupé.
C'est intéressant, ça veut dire, je fais juste une petite aparté, ça veut dire que typiquement, vous pouvez valoriser un patrimoine que je n'habite pas, mais que je mets en location, ça veut dire.
Exactement.
Ah, c'est pas mal ça, en termes de rendement et de...
Exactement. On fait tout le travail d'économie financière avec le propriétaire.
On a François qui nous suit, qui est indépendant et qui nous dit c'est tout le problème des auto-entrepreneurs à force de prendre des risques. La question est de savoir s'il y a un moyen de minimiser les apports ou de les plafonner.
Les apports...
Je vous lis ce qu'il nous écrit. Idée de simplifier et de rendre accessible la primo-accession aux indépendants micro-entrepreneurs. Cette histoire d'indivision, elle est peut-être au cœur du business model de nous, Français, pour pouvoir en fait être propriétaire demain.
Mais il y a plein de systèmes, moi je rejoins là-dessus. C'est vrai qu'Arthur, on parlait de l'indivision. Moi, ça m'amuse à chaque fois de parler de démembrement, parce que de faire donc le distinguo entre les murs et l'usage, etc. Et ça a l'air toujours, c'est très difficile d'accès pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, mais en réalité, ça permet aussi de donner accès plus facilement à l'usage qui reste la clé. Et donc, c'est cette remise en cause aussi de cette propriété à 100% et cette revalorisation de l'usage en réalité.
C'est exactement ça. C'est en fait l'écosystème de la propriété qui se partage de plus en plus en conservant son usage. Aujourd'hui, il y a même des gens qui louent leurs fenêtres, pour tout vous dire.
Non, sans rire.
Non, je vous jure. Je vous jure.
Alors moi, j'ai besoin d'une illustration. C'est quoi le cas d'usage où on loue sa fenêtre?
Écoutez, on n'a pas envie de dépenser plusieurs milliers d'euros pour refaire tous ces doubles vitrages. Donc en fait, il y a des entreprises qui vous permettent de louer vos fenêtres en payant quelque chose tous les mois.
C'est génial.
Oui, ça existe.
Marie, il faut qu'on invite.
On va en parler avec Arthur en antenne.
Ça existe.
Bon, écoutez, merci pour cette idée d'interview, Arthur Langlais. On va faire appel à ces entreprises locatrices de fenêtres très, très, très sérieusement.
Merci à vous.
On prend le pouls de ce secteur immobilier, de ce logement qui évolue. C'est peut-être le moment pour ce genre d'entreprise, mais demain, à long terme, à quoi ressemblera notre marché immobilier, notre capacité à nous, Français, à être propriétaires? Les questions sont posées. Merci à tous les deux. Merci Marie, qu'on retrouve évidemment demain, comme tous les jours, dans Tout pour investir. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay, vous le savez, sur l'application BFM Business d'ici quelques minutes. À suivre. Bien écoutez, on va continuer de parler de sujets réjouissants, puisqu'on va parler de vos impôts. On va essayer de faire ça de manière sympathique et productive avec Marie-Christine Sonquin des Échos, puisque nous allons vous aider à identifier les pièges et tout ce qu'il faut savoir sur cette cette nouvelle déclaration qui a démarré, là, c'est la période, comme on dit. On va répondre à Artov qui nous a écrit, et puis aussi à Vincent qui nous a posé une question sur l'IFI. Voilà, réponse à suivre dans quelques minutes. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de vos finances personnelles. On va parler sport dans quelques minutes. Nous allons parler de l'intérêt qu'il y a peut-être à investir dans le secteur du sport. On sera avec l'équipe de Montpensier Finance parce que les retombées économiques des Jeux Olympiques pour la France sont estimées à 6 milliards d'euros. Donc comment investir et sur quel segment miser pour bien surfer cette vague sport, évidemment avec les Jeux Olympiques, mais aussi l'Euro, pas loin de chez nous, en Allemagne. C'est trop programme de Tout pour investir dans une quinzaine de minutes. Mais avant ça, on va s'occuper d'un sujet non moins réjouissant, vos impôts. La corvée de la déclaration a commencé. Ça vous concerne si vous êtes bien soumis à l'impôt. Et heureusement, pour répondre à vos questions, ma consoeur Marie-Christine Sonquin des Échos est avec nous. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Lorraine.
Marie-Christine aux manettes de l'équipe patrimoine des Échos. Je vous précise que nous allons faire une petite séquence spéciale impôt. C'est maintenant tout de suite dans vos oreilles, dans quelques minutes en podcast et en replay. Et ce sera surtout vendredi, en kiosque, physique ou digital, dans vos Échos. Déjà, Marie-Christine, avant de commencer cette corvée des impôts 2024, enfin 2023 du coup plutôt. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qu'il faut avoir en tête ?
Alors, on ne peut pas dire que ce soit la révolution cette année. Hein. Ce n'est pas vraiment l'année du...
Rapprochez-vous un peu du micro, Marie-Christine, qu'on entende bien.
Oui, je me rapproche un peu du micro. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, ce n'est pas l'année du grand soir fiscal de 2024. Vous n'allez pas trouver de très grosses innovations sur votre feuille d'impôt.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un petit peu de stabilité, si je puis dire.
Oui, comme ça, on s'y retrouve. On n'a pas besoin de refaire tous ces calculs. Il y a un peu de stabilité. Alors, néanmoins, il y a des choses quand même qui sont nouvelles et on peut noter, je pense qu'on l'a tous remarqué, ces deux dernières années, il y a eu quand même une inflation très considérable. Mmh. Et ça, c'est très important pour l'impôt sur le revenu, parce que les tranches du barème progressif de l'impôt, eh bien, elles sont indexées sur cette inflation. Alors, pendant très longtemps, finalement, on l'avait un petit peu oublié, parce que comme il y avait très peu d'inflation, eh bien, le réajustement annuel, il était quand même relativement minime.
Oui.
Et là, depuis 2 ans, eh bien, il y a vraiment des réajustements qui sont très importants. L'année dernière, c'était un réajustement de 5,4%. Cette année, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même très significatif, parce que c'est 4,8%.
C'est-à-dire que les tranches de barème ont été réévaluées.
Voilà, tout augmente. Donc, en fait, maintenant, pour rentrer dans l'impôt, pour un célibataire, si vous avez donc une seule part, vous êtes un célibataire, vous n'avez pas de personnes à charge, eh bien, pour avoir à payer des impôts, il faudra avoir accumulé au cours de l'année au moins un revenu net de 11 295 euros. Donc, ce qui fait qu'il y a finalement de plus en plus de personnes qui sont exclues de cet impôt sur le revenu. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou plutôt être dépité par cette nouvelle, mais il y a de moins en moins de personnes qui, finalement, sont concernées par l'impôt sur le revenu. Vous avez 22,5 millions de foyers fiscaux qui, finalement, sont exclus de l'impôt sur le revenu. L'année dernière, c'est ce qu'a provoqué le réajustement. Voilà.
Et donc, c'est ça que ça veut dire. 22 millions de Français ce qui veut dire ne payent pas d'impôt.
En fait, pas d'impôt sur le revenu, et finalement que la masse des personnes qui, elles, payent l'impôt sur le revenu se rétrécit finalement d'année en année. L'année dernière, vous avez, je crois que c'est 2,6% de foyers en moins qui ont été donc soumis à cet impôt sur le revenu.
Ouais, difficile à lire à titre individuel, est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle parfois?
Ça dépend, en fait, si vous avez été augmenté à hauteur de cette inflation, finalement le fait que les tranches sont réajustées, ça va être relativement neutre pour vous. En revanche, si vous n'avez pas été augmenté à hauteur de cette inflation, c'est quand même le cas de nombreux Français, eh bien, vous avez un petit lot de consolation, c'est que vous allez payer finalement moins d'impôts.
Alors, il y a une chose qui n'a pas changé, chère Marie-Christine, c'est le seuil de patrimoine net qui vous assujettit à l'impôt. c'est 1,3 million.
Alors ça, vous parlez de l'impôt sur la fortune immobilière, parce qu'on pourrait se dire, ah ben, finalement, cette inflation, elle profite plutôt aux contribuables. Oui, pour ce qui concerne le réajustement des tranches du barème, mais vous avez toute une série d'impôts qui ne sont pas du tout concernés par ces mesures de réajustement. Vous avez certains seuils qui sont réajustés et d'autres qui ne bougent pas. C'est le cas notamment de l'IFI, hein, l'impôt sur la fortune immobilière. Dès lors que votre patrimoine net immobilier représente plus de 1,3 million d'euros, eh bien, vous êtes assujetti à l'IFI. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, si vous atteignez cette barre, c'est que le barème, lui, il commence à 800 000 euros. Donc, c'est ce que beaucoup d'assujettis ignorent. Ils se disent, ben voilà, j'ai juste...
En dessous d'un million trois.
En dessous d'un million trois, ça va. Mais à partir d'un million trois, on se dit, ben l'impôt va être extrêmement léger. Ben non, parce que vous avez une tranche qui est de 0,5%, qui est calculée déjà sur ce qui est entre 800 000 et 1,3 million. Donc, vous allez déjà commencer à payer un IFI relativement significatif, même si vous avez en plus un abattement quand même qui est prévu pour les gens qui sont juste à la frontière, qui dépassent juste un petit peu les 1,3 million, de façon à ce que il n'y ait pas un effet de seuil trop brutal pour ceux qui passent juste les 1,3 million du fait de ce barème qui commence en fait à 800 000. C'est un peu subtil.
Ouais. Petite question, si on payait l'IFI l'année précédente et que là, on ne paye plus l'IFI, est-ce que vous savez si on doit quand même déclarer, faire sa déclaration d'IFI ? C'est une question de Vincent qui nous a écrit en amont de notre échange, Marie-Christine. Il était assujetti ces dernières années à l'IFI. Il ne l'est plus techniquement depuis le 1er janvier 2024 parce qu'il a vendu des SCI, visiblement, en 2023. Il nous demande conseil. Est-ce qu'il faut quand même faire une déclaration à l'IFI ?
Normalement, vous n'avez plus de déclaration à faire. Ce qui est probable, c'est qu'il reçoive une demande d'explication de la part de l'administration fiscale. Et dès lors qu'il recevra une demande d'explication, il faudra juste qu'il réponde en disant ben voilà, j'ai cédé telle et telle part de SCI pour tel montant, ce qui fait que je passe en deçà de la barre de la déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière. Mais effectivement, s'il est en deçà de 1,3 million, après, il peut effectivement, sur sa déclaration, faire une mention spécifique, puisque c'est déclaré en même temps que l'impôt sur le revenu. Il peut se dire, il peut dire à l'administration fiscale, et cette année, je ne fais pas de déclaration d'impôt sur la fortune immobilière du fait de vente de parts de SCI. Peut-être que ça lui évitera d'avoir cette demande d'explication de la part de l'administration, qui peut s'étonner en fait, puisqu'elle a son fichier de personnes qui déclarent à l'IFI, que cette année il soit sorti de l'impôt sur la fortune immobilière.
Voilà Vincent, ceinture bretelle, rajoutez l'information, faites-en mention, comme ça vous êtes tranquille. Ça peut peut-être ultimement éviter un petit contrôle fiscal d'ailleurs.
Pas forcément un contrôle fiscal, mais juste une question de la part de l'administration qui, en faisant ses contrôles, non pas sur place, mais ses contrôles sur pièce, en screenant toutes les déclarations des contribuables, peut s'apercevoir que tel foyer fiscal qui était assujetti l'an passé ne l'est plus cette année.
Bon, on a parlé un petit peu d'IFI, on va revenir un petit peu sur l'impôt sur le revenu parce qu'il y a d'autres exemples qui montrent que finalement, avec l'inflation, tous les contribuables n'ont pas à y gagner.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, il y a pas mal de seuils qui sont réactualisés en fonction de l'inflation, mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas. Alors, on peut prendre quelques exemples. Par exemple, celui des niches fiscales qui sont plafonnées à 10 000 euros. Eh bien, ça reste 10 000 euros, il n'y a absolument aucune modification, bien qu'il y ait de l'inflation. Une autre niche fiscale qui concerne pas mal de contribuables, c'est celle des emplois à domicile. Oui. Donc vous avez droit à un abattement qui est de 50% de vos dépenses, dans la limite de 12 000 euros. Alors 12 000 euros avec quelques exceptions, parce que vous pouvez ajouter un petit peu en fonction de votre foyer fiscal, en fonction de chaque situation. Mais c'est ce seuil de 12 000 euros, lui non plus, il ne bouge pas. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que cette année, l'administration s'intéresse plus particulièrement à l'affectation de ces dépenses pour emploi à domicile. Et il faut d'ailleurs mentionner à quoi doivent être affectées ces dépenses. Par exemple, si vous avez des dépenses de petits travaux de jardinage, le plafond, c'est 5 30 000 euros. Si vous avez des dépenses pour des aides à l'informatique, c'est seulement 3 000 euros. Donc il faut aussi spécifier ça. En tout cas, ça fait partie des seuils qui ne bougent absolument pas. Vous en avez d'autres aussi, par exemple, sur l'assurance vie. L'assurance vie, on le dit souvent à votre antenne, hein, vous avez un régime fiscal qui est quand même assez agréable pour, dès lors que vos contrats ont plus de 8 ans. Vous avez notamment droit à un abattement annuel sur le montant des intérêts perçus. Dès lors que vous faites des retraits sur votre contrat d'assurance vie, eh bien, si chaque année le montant des intérêts, enfin de la part sur ce que vous retirez, si le montant des intérêts ne représente pas plus de 4 600 euros pour un célibataire, ça fait 9 200 euros pour un couple, et bien là, vous n'avez pas d'impôt à payer. Et bien, ces seuils-là, ils ne sont pas non plus réactualisés, ils ne sont pas non plus revus. Donc, ça fait partie de tous ces seuils qui restent totalement figés, et finalement, ça aboutit à une hausse de la pression fiscale, une hausse qui est très discrète, mais qui n'en est pas moins réelle.
On le voit, hein, l'inflation qui n'est pas répercutée partout de la même manière. Est-ce que ce sujet d'inflation vous semble particulièrement au cœur ou dans la tête des gens qui déclarent leurs impôts cette année ?
Alors, je pense que c'est pas neutre, hein, forcément, puisque chacun a pu subir les effets de l'inflation. Mais justement, du fait de cette réévaluation des tranches, je pense que c'est quand même ce qui ressort le plus, qui est le plus ressenti par le contribuable. Donc il y a quand même cette réévaluation qui a un effet certain sur le montant de l'impôt.
Marie-Christine, vous suivez avec l'équipe patrimoine des Échos depuis longtemps les déclarations d'impôts. Est-ce que vous observez quand même que c'est plus simple en 2024 de déclarer ses impôts qu'avant? Est-ce que la digitalisation du processus fait du bien?
Alors, très certainement, pour ceux qui sont très à l'aise avec le digital, pour les autres, il y a quand même un certain nombre de personnes qui restent adeptes de la déclaration papier. Mais bon, c'est vrai que le digital permet quand même à un certain nombre de personnes vraiment de simplifier réellement cette corvée. Pour autant, il ne faut pas s'exonérer de faire les vérifications qui sont nécessaires, puisque, en plus, pour nous aider, l'administration fiscale pré-rempli énormément de cases de l'impôt sur le revenu, mais justement, le fait que ça soit pré-rempli, et j'attire l'attention des contribuables là-dessus, il faut quand même vérifier tout ça, regarder que ce sont bien les bons montants qui sont portés aux bons endroits, et puis ne pas oublier aussi ce qui peut aussi vous permettre de réduire un petit peu les impôts, par exemple de déclarer les enfants scolarisés, ça vous donne droit à une petite réduction d'impôt. Ce sont des petites cases qu'on peut oublier, et c'est dommage parce que ça vous permet de réduire facilement le montant de votre impôt sur le revenu. Vous y avez droit, donc faites attention à ces petites cases qui peuvent vous donner droit à un avantage fiscal.
Et attention à vos petites cases pré-remplies, vous l'avez entendu. Et oui, la digitalisation permet à certaines cases d'avoir déjà des informations, mais elles ne sont pas garanties justes. Et puis si l'information dedans est fausse, c'est votre responsabilité.
Oui, c'est votre responsabilité qui est engagée, absolument. Oui.
Il y a plein d'autres choses à préciser sur les nouveautés et les pièges à éviter de cette déclaration de revenus 2024. Je vais vous laisser faire votre travail, chers auditeurs, auditrices, peut-être en vous plongeant dans les échos au vendredi, puisque vous avez travaillé, vous et votre équipe, Marie-Christine, sur un dossier très complet. Il y a tout un pan aussi sur l'immobilier, les nouveautés qui concernent les propriétaires immobiliers. Vous devez être particulièrement attentif. Il y a pas mal de choses aussi qui concernent les revenus fonciers classiques qui ne changent pas, mais il y a quand même quelques petites nouveautés. Tous les détails à retrouver dans ce dossier spécial déclaration d'impôt 2024 dans les Échos patrimoine. Merci beaucoup Marie-Christine.
Merci à vous Laurent.
Si vous avez attrapé cette séquence en cours de route, elle est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. J'avais promis à Artoff qu'on répondrait à sa question. Il a ouvert un compte titre chez un broker en ligne au mois de janvier 2024. Il nous demande s'il faut le déclarer aux impôts dès cette année ou bien attendre l'année prochaine. Marie-Christine, au pied levé, est-ce que vous avez une réponse pour Artoff?
De toute façon, ouvrir un compte-titre ne nécessite pas de déclaration. Il fera une déclaration donc l'année prochaine, puisque ça concernera ses revenus 2024, s'il a perçu des dividendes ou s'il a réalisé des plus-values.
Si c'est un compte-titre à l'étranger?
Ah, alors attention,
à l'étranger, pardon.
Alors à l'étranger c'est totalement différent. Enfin là, en l'occurrence, ça concerne toute l'année 2023 et non 2024. Donc il faudra qu'il déclare l'année prochaine, qu'il n'oublie pas de cocher cette case lorsqu'il remplira sa déclaration de revenus.
Vous avez entendu, de toute façon, cher Artov, que votre compte titre soit logé en France ou chez un broker à l'étranger. Comme vous l'avez ouvert en janvier 2024, a priori, ça ne concernera que votre déclaration l'année prochaine. Donc pas de stress. Merci beaucoup, Marie-Christine, d'avoir répondu au pied levé et à nos auditeurs et auditrices. Vous continuez à nous écrire. L'adresse est directe à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn. Vous m'écrivez en message privé. Vous voyez, vos messages arrivent jusqu'à nous et nos expertes. Vous restez avec nous. On va finir l'émission en parlant sport. On va parler de comment investir peut-être dans cette année particulièrement sportive dans ce secteur du sport. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir. Investir autrement.
C'est l'heure de parler sport avec Nicolas Kieffer. Bonjour Nicolas.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes gérant chez Montpensier Finance. On s'intéresse au sport pour finir l'émission parce que nous sommes plus que dans une année sportive. Évidemment, il y a les JO, qui n'en a pas entendu parler, mais il y a aussi l'euro en Allemagne dont on ne parle pas du tout assez à mon goût. Cher Nicolas, rappelez-nous quelques chiffres pour qu'on comprenne bien ce que c'est que le marché du sport en 2024, dans le monde déjà.
Alors le marché du sport, c'est un marché qui est bien plus profond et large qu'on ne le pense. C'est 5600 milliards de dollars dans le monde. Pour vous donner une idée, c'est deux fois le PIB français, exactement. En revanche, en termes de croissance, c'est un petit peu plus important. C'est autour de 8% par an sur les prochaines années.
C'est mieux que le PIB, oui.
Voilà, c'est deux fois le PIB mondial. Et ce marché a connu un véritable boom, un bouleversement avec la pandémie mondiale il y a 4 ans. Et ça a eu un impact absolument extraordinaire sur la pratique sportive et sur la façon dont les différentes générations vivent leur vie, ont un style de vie de plus en plus actif et sain.
De la pratique sportive, du bien-être à l'investissement, il n'y a qu'un pas. L'idée avec vous, c'est pendant quelques minutes, réfléchir comment on peut se positionner sur ce secteur du sport. Quels sont les moyens de miser dessus? D'abord, qu'est-ce qui vous rend confiant, cher Nicolas, que la croissance annuelle, là vous nous parlez de 8% à horizon 5 ans, estimation, qu'est-ce qui vous rend aussi confiant? Une croissance de 8%, c'est quand même soutenu. Quels sont les sous-jacents de cette croissance du secteur du sport?
Il y a plusieurs moteurs. Alors, je veux dire que la pandémie a joué un rôle d'accélérateur sur des tendances qui étaient déjà un peu présentes. C'est-à-dire que la pratique sportive était en croissance 3-4% par an. On est passé à 7-8% par an. Les différentes générations, et surtout les générations les plus jeunes, donc ce qu'on appelle les millennials, les Gen Z, donc les moins de 27 ans, qui représente quand même plus de 50% de la population mondiale, intègre clairement la pratique sportive et l'alimentation, le bien-être comme un élément majeur de leur style de vie et dans leur choix de vie, dans leur choix de travail, etc. Et donc ça a été vraiment c'est un véritable moteur de croissance pour la thématique. Ensuite, on a le calendrier sportif. Ça, on pourra l'évoquer, mais c'est réellement quelque chose qui va jouer sur la pratique, sur l'économie du sport. Et donc, on a un calendrier sportif qui est de plus en plus dense, de plus en plus d'événements sportifs internationaux qui sont suivis par de plus en plus de spectateurs dans le monde et eux-mêmes sont de plus en plus engagés dans ces événements sportifs. Et dernièrement, on a quand même une prise de conscience chez les pratiquants, mais également chez les gouvernements qui ont compris que c'était, d'un point de vue santé publique, c'était quelque chose d'extrêmement important de pousser les populations à pratiquer un sport, à avoir un style de vie sain. Et donc ça, clairement, on le voit dans certaines régions, qu'on peut parler en Europe, aux États-Unis, mais également en Chine, par exemple, qui a un plan quinquennal sur 5 ans d'ici 2025 qui vise à doubler l'industrie du sport sur 5 ans. Donc passer de 400 milliards en 2020 à 800 milliards en 2025. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour la thématique.
Mais oui, vous nous parlez d'une vision à 360 degrés du sport. En fait, il y a l'offre d'accompagnement pour chaque individu, il y a le sport santé, il y a le sport compétition, il y a le sport éducation. On le voit, en fait, le sport, il déborde dans plein de domaines. Est-ce que il y a une densification du calendrier sportif? Il y a les JO tous les 4 ans, il y a l'Euro côté foot tous les 4 ans, il y a la Coupe du Monde, le football tous les 4 ans, il y a beaucoup de compétitions sportives. Est-ce que ça, vraiment, ça soutient l'économie, est-ce que ça la noie pas un peu? Maintenant, on a tellement d'événements sportifs. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a trop?
Alors, globalement, le sport professionnel, le segment du sport professionnel, c'est marginal sur les fameux 5600 milliards que j'évoquais. Ça va être autour de 200-300 milliards de dollars dans le monde. Sauf que ces 300 milliards de dollars vont être un réel moteur sur la pratique sportive amateur. C'est que ça va refléter sur la pratique sportive amateur. Si on revient sur, par exemple, les Jeux Olympiques, ce sont des retombées économiques qui vont être autour de 6 milliards d'euros pour la France, pour 2 milliards d'investissements. Si on regarde plus dans le détail, dans les différents acteurs de la thématique, on voit que c'est quand même une formidable occasion pour les principales marques, les principaux équipementiers, de montrer les dernières innovations sportives, les dernières technologies, que ce soit à travers leurs chaussures, leurs équipements, etc. Et donc ça, pour les géants du secteur, mais également pour les nouvelles marques qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. On peut évoquer Lululemon qui équipe la délégation olympique canadienne, ou encore On Running qui équipe l'équipe suisse. Et donc là, clairement, pour ces marques-là, c'est un formidable tremplin pour la notoriété. Et enfin, la pratique sportive. Les derniers chiffres que j'ai, c'est sur la Coupe du Monde de rugby. On a évoqué des chiffres entre plus 20 et plus 30% sur le nombre d'inscriptions en club sur l'année 2023. Donc clairement, on voit que c'est un véritable moteur dans tous les aspects du terme.
Le sport professionnel qui ne pèse pas si lourd finalement dans le marché du sport et du bien-être, mais finalement qui est à l'origine de beaucoup de conversions vers le sport. Alors, comment on fait pour investir dans le sport quand on est investisseur particulier? Là, vous nous avez parlé de quelques marques. Lululemon, qui je crois est né au départ dans l'univers du yoga, je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait.
De On Running, qui est la marque de Federer, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Au départ, c'est la basket de running, qui est maintenant, bon, on l'entend, équipe plus largement d'autres domaines sportifs. Comment on fait? On scanne les marques, on s'intéresse à des infrastructures. Qu'est-ce que vous pourrez recommander en quelques minutes à ceux et celles qui nous écoutent?
Alors, ce qui est intéressant dans ce secteur, c'est que c'est relativement large en termes d'acteurs. Bon, le plus évident, évidemment, ça va être les équipementiers sportifs. Donc là, clairement, comme je l'évoquais, on a les géants du secteur qu'on connaît tous et les nouvelles marques un petit peu plus innovantes qui prennent progressivement des parts de marché aux géants du secteur. Donc chez On Pensait, par exemple, on aime beaucoup les sociétés justement qui représentent cette nouveauté et cette innovation. Donc j'évoquais On Running, qui est une société suisse listée aux États-Unis. On a également des sociétés comme Deckers qui détient la marque Oka, donc qui est une marque historiquement française qui fait des chaussures de running également et qui s'est développée aussi dans le lifestyle, etc. Donc ça, c'est des sociétés qui étaient à 0% de part de marché, qui sont entre 5 et 10% sur certains segments de marché au niveau mondial. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Ensuite, on va avoir l'extension qui est la pratique sportive, donc à travers par exemple les salles de sport. Et donc ça, il y a un certain nombre de salles de sport cotées, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. On a par exemple des sociétés comme Basic Fit, qui est le leader européen avec une approche un petit peu low cost, avec des acteurs un petit peu plus niches comme Sats dans les pays scandinaves, qui ont également de très, très beaux potentiels de croissance. Ensuite, si on aligne la pratique avec son style de vie, on peut parler de nutrition sportive, et donc là on a des acteurs comme Celsius Holding qui fait des boissons énergisantes, ou encore Bellring Brands sur les boissons protéinées. Et enfin, si on va encore plus large, les activités de plein air, le vélo par exemple, on a des acteurs absolument formidables comme Mips en Suède, Thule en Suède également, ou encore Shimano qui équipe pratiquement 80% des vélos dans le monde.
On le voit, l'univers d'investissement est très large entre les marques un peu, j'allais dire, les pelles et les râteaux du secteur sportif, les objets qui nous permettent de faire du sport. Vous êtes confiant qu'au-delà du calendrier sportif, on est sur une tendance à long terme, et c'était l'idée de faire le lien entre le calendrier sportif et votre portefeuille d'investissement, chers auditeurs, auditrices. Merci beaucoup Nicolas Kieffer.
Merci
et
beaucoup.
Toute l'équipe de Mon Pensier Finance qui nous aide à y voir plus clair sur ce secteur du sport. Investir dans le sport, mode d'emploi. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay. Vous pouvez nous épeler les deux marques de vélo que vous avez citées, les suédoises?
Alors, il y a Mips, M-I-P-S, et Thule, T-H-U-L-E.
Voilà, pour ceux qui nous écoutent à la radio, à la télé, qui aiment le vélo et qui veulent peut-être passer de pratiquant à investisseur. C'est la fin de Tout pour investir. L'équipe qui prend le relais est en piste. Sandra Gondouin est parmi nous. Bonjour Lorraine. Vous êtes avec nous, Sandra. Restez avec nous, Nicolas, pour la fin de l'émission. Sandra, le programme d'avec vous qui débarque dans 5 minutes car nous sommes à l'heure.
Beaucoup de sujets, évidemment. On va parler sur la vie en entreprise dans cette émission. On va parler CV et entretien d'embauche. On va parler de redressement judiciaire, de télétravail, mais aussi de la place du travail dans vos vies. C'est notre question du jour. Vous pouvez y répondre sur les réseaux sociaux et nous écrire. Vous posez toutes vos questions à notre adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On a 4 experts sur le plateau, comme tous les jours, qui sont là pour vous donner leurs conseils.
Voilà, c'est avec vous. Ça démarre dans 5 minutes sur la chaîne, notre station radio également, mais également sur les réseaux sociaux. Et ça se finit à 13h. Dépêchez-vous d'écrire des questions avec vous à bfmbusiness.fr. Il n'est pas encore crypto-millionnaire avec sa stratégie altcoin, donc il est toujours avec nous. Amaury Tonquedec nous rejoint. Le bitcoin se traite autour de 66 360 dollars à l'heure où nous le parlons. À 15h, vous prenez les manettes BFM Crypto. Quel est le programme de l'émission ?
Absolument, on va parler d'un projet stablecoin français qui est créé notamment par Pierre Person, ancien crypto-député, qui sera avec nous tout à l'heure. Il a levé 7 millions d'euros pour ce projet et on va voir en quoi il pourrait vraiment avoir des parts de marché intéressantes pour les mois qui viennent en France et en Europe.
Voilà, BFM Crypto, le club, version française, le stablecoin français. À retrouver également à 21h30 et en podcast, vous le savez, comme l'ensemble de nos programmes. On se retrouve demain. Demain, on parlera encore de vos impôts, si vous êtes parents. Écoutez-nous demain, on vous rappellera tout ce qu'il ne faut pas oublier. Et puis, c'est jeudi Private Equity, on zoomera sur le secteur des logiciels. Pourquoi est-ce que le secteur du logiciel, notamment les SaaS, sont les chouchous du Private Equity ? Réponse demain. Bonne écoute sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.